Vous êtes bien sur Boulevard 102.1. Merci d'être là. Mon nom, c'est Marceau. Je suis accompagné de Pascal CV, ma fidèle destrier.
J'sais
c'est
pas,
moi qui chauffe.
C'est ça au féminin? Ça ne doit pas être destrière.
J'ai jamais entendu destrière. Mais mettons que je suis sur un cheval. Ben ouais. Toi, t'es assis en arrière de moi.
Hé, hey, ho, ho! J'ai mien.
C'est moi qui tiens les reins.
J'ai mien à côté.
Ah non, tu pourrais être assis. Non.
Non, je pourrais... Non.
En arrière, c'est correct.
Je pourrais avoir le mien.
Non.
Je fais pas de concession. Je fais pas de concession. J'ai le mien. T'as le tien.
Mettons que je suis l'éculuc, là. Puis là, j'ai mon cheval blanc, là. C'est... comment
ça s'appelle, le cheval blanc? Je suis pas en tape blanc. Le cheval, je me rappelle pas.
Dolly, ça se peut-tu de Dolly?
Ah, je pense que oui. Oui, c'est ça.
Mais toi, moi, t'es rentre en plan.
Non, je suis pas rentre en plan. Je suis pas. Non.
Quel personnage? Quel personnage qu'on vous fait penser, les amis? 418-971-1021.
La
cloche.
Duo,
la cloche et l'idiot,
moi,
on l'a déjà entendu.
Moi, ouais.
Puis je ne tolère pas que vous traitiez Pascal CV d'idiot.
Qui est la cloche et qui l'idiot aussi?
C'est probablement moi, la cloche. 418-971-1021. Donc, trouvez autre chose hein, pour nous achaler une fois de temps en temps. Merci d'être là. On a un super de gros show pour vous autres. On va avoir Frédéric Bérard, qui est un gars avec qui je m'entendrai probablement pas sur aucun truc politique, mais il a écrit tout un papier sur le site de Nouveau. Puis j'ai hâte de jaser avec lui. Denis Gravel va venir, comme à son habitude, dans le Pit Stop. On a plein de sujets à vous jaser, entre autres un sondage sur les pistes cyclables.
Ce serait Jolly Jumper, il paraît que...
Jolly Jumper, c'est ça?
Oui, ça serait Jolly Jumper, le nom de... Et parce qu'on se fait reprendre, là.
C'est... Ouf! J'avais Dolly, mais c'est Jolly. Jolly Jumper.
Ouais. Marceau, Avrel, Pascal, Atalton. Quelqu'un dit la belle et la bête. Là. Par exemple, vous n'avez pas précisé qui est qui. Je pourrais mal le prendre.
Mais toi, tu serais... Moi, je suis Joe Dalton. Toi, tu serais Maman Dalton. Hey, Maman Dalton, c'était quelque chose. Là. Ou Avrel. Avrel.
Non.
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 Avrel, je te verrai. Avrel.
Non, non, non.
C'est moins 8 degrés sur Québec. Quelques averses de neige aujourd'hui. Ça devrait cesser dans les prochaines heures, les amis. Maximum de moins 7. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu as vu ça passer sur les pages de Spotted. Mais les déneigeurs, il y en a une couple qui était en retard hier.
Mm-hmm, mm-hmm. Je pourtant, sais pas les si lumières flashaient. Ouais. Les gens avaient tassé leur voiture. Étaient
ouais,
prêts.
Même les déneigeurs qui déneigent chez toi, là, au privé.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est par le fait qu'il a neigé longtemps. À un moment donné, les gars, il faut qu'ils aillent se coucher. Là. Mais il y a des gens qui étaient un peu impatients sur les spotters en disant
bon. «
Hey, quel secteur vous êtes? » Puis nous autres, on n'a pas été déneigés.
Est-ce quelqu'un qui pourrait même passer venir m'aider avec sa souffleuse?
Ouais,
j'ai vu ça passer, mais tu as raison. C'est peut-être le 48 heures de neige
exact.
Abondante puis la pénurie de main-d'œuvre.
À un moment donné, les
L'hypothèse
gars
ne
peuvent pas réveiller pendant 48 heures. Là.
Ouais, ça va être correct.
Il faut leur laisser du temps. Tu sais, autant
de... La cocaïne, Trump veut qu'on slack. Là. Fait que...
autant des fois, je ne sais pas pourquoi tu dis on, mais autant des fois, les gens sont impatients en disant hey, là, il neige, mon déneigeur n'est pas arrivé. C'est parce que la neige n'a pas encore fini de tomber. Ils ne peuvent pas ramasser quand ça tombe comme ça. Là. Il attend qu'elle tombe, puis après ça, il ramasse. Autant qu'hier, je sentais beaucoup d'impatience, mais probablement que c'est en raison du nombre d'heures, effectivement, qui a neigé. Les gars, il faut qu'ils se reposent. Mais si vous avez des réponses à nous donner, c'est au 418-971-1021 que ça se passe. Pour demain, c'est ensoleillé, nous mentionne-t-on, avec un maximum de moins 12. Jeudi, c'est des averses de neige, maximum de moins 8 degrés. Vendredi, des averses de neige avec un maximum de moins 2. Le Grand Orange nous a bluffé finalement, hier, c'est tombé. On en a eu une vague idée hier matin parce que le Mexique a bénéficié d'un sursis de 30 jours pour protéger les frontières. Au Mexique, on a décidé qu'on allait ajouter 10 000 personnes de plus pour surveiller la frontière mexicaine.
Ouais.
Concrètement, comment ça va se faire? C'est une bonne question, mais ça va être les soldats qui devraient être mis en place. Puis hier matin, il y a eu une discussion entre Justin Trudeau et Donald Trump où Trump n'était pas du tout satisfait de la discussion qu'il avait eue avec Trudeau. Il a encore menti en disant que les banques n'avaient pas leur place au Canada, alors qu'on a énormément de banques américaines au Canada. On en a à peu près, si je ne me trompe pas, le chiffre exact, c'est entre 18 et 20 banques américaines qu'on a au Canada. Mais encore quelques heures, puis on a appris finalement en fin de journée. Dans l'émission de Gravel dans le retour, pendant une chronique de ton ami, là, l'économiste.
Ah, Francis Gosselin.
Oui, que Donald Trump donnait encore un sourcil de 30 jours pour ce qui est du Canada. Fait que plus de peur que de mal. N'en demande pas moins que ça nous donne une leçon. À un moment donné, l'économie entre provinces, faut que ça se fasse.
Moi, j'ai peur que ça s'essouffle en ce moment parce que les gens se sentent peut-être un peu moins... concernés en ce moment. Tu sais, le mouvement entre provinces, j'y crois encore. Parce que eux se disent un mois, on sait jamais. Il est un peu impossible à cerner, Donald Trump. Parfois, il va bluffer, parfois, il fera pas. On va devoir continuer de travailler en ce sens-là, mais le mouvement citoyen qui réclamait justement puis qui donnait un appui et même qui poussait les gouvernements dans le dos là, pour avoir des avancées, lui, il va s'essouffler. Puis ça, ça me fait peur un peu parce que c'est sûr que les gouvernements regardent un peu c'est quoi le pouls de la société là, pour prendre des décisions puis être proactifs dans certains secteurs. J'espère juste que ça ne va pas s'essouffler, ça. Ouais. Parce que ça a bougé beaucoup, parce qu'on avait aussi notre mot à dire, parce que les gens dans les provinces disaient ce qu'il y avait à dire, les entrepreneurs levaient la main, parlaient des impact. Faut pas que ça s'essouffle parce que là, on a une pause d'un mois, là.
Exact. Tu sais, puis on en a parlé, là, justement, des mouvements de boycott. On disait hier, faites attention, parce que si vous boycottez des entreprises américaines, mais qui procurent de bons emplois au Québec, ça se peut que vous nuisiez à votre voisin, puis c'est pas la meilleure... La meilleure des choses. Mais est-ce qu'il bluffait? Moi, je pense que oui. Là. Il a fait trembler le Mexique, il a fait trembler le Canada. Ça a encore une fois gonflé son égo. Pour ce qui est de la Chine, ben on l'a vu, là, le 10% est applicable. Justin Trudeau a décidé effectivement de renforcer la frontière de son côté malgré le fait qu'il y a juste 1% du fentanyl qui arrive aux États-Unis, qui provient du Canada. On a nommé un tsar!
Hey, sérieux, ça, là, j'ai tellement ri, là, j'ai tellement ri. En même temps, je t'allais voir, puis tu sais, dans
pas
le temps...
Pas un responsable, pas un directeur,
Le tsar du fentanyl! Là,
un tsar du fentanyl, puis là, bon, on a décidé que les cartels mexicains, ça allait être considéré comme des terroristes au Canada, puis là, ben ça fait grandement plaisir au gros orange l'autre côté, mais c'est ça, je pense que c'est la prise en main là, de nous en tant que pays, essayer de s'améliorer en tant que province pour faire du libre-échange puis que ça cesse d'être compliqué parce que c'est un enfer fiscal puis il y a énormément de documents à remplir là, quand tu fais affaire avec les autres provinces. Des fois, tu te dis c'est moins compliqué de faire affaire avec l'Afrique, Simonac, que de faire affaire avec l'Ontario. Fait que ça, il faut que ça s'améliore puis il faut pas que le mouvement, justement, encourageons local, s'estompe parce que, je veux dire, ça a toujours été bon là, d'encourager les producteurs locaux.
Mais pour le tsar, là, j'y riais tellement que je me dis il faut que je cherche. Puis là, je voyais juste les traductions francophones de ça, là, où, mettons, on fait référence à la Russie et autres, mais j'ai l'impression que Justin Trudeau l'a juste fait qualifier sa définition anglais-français. Là, puis rappelle-toi, Trump, auparavant, il avait déjà nommé un tsar de son côté aux États-Unis. En fait, c'est les Américains. Je ne suis pas sûr si c'était Trump dans le temps. Je vais juste revoir un peu.
Le tsar!
Mais c'est plus un haut lieutenant, haut fonctionnaire qui va gérer quelque chose.
On pas ça comme fonction ici chez Leclerc Communication. On pourrait-tu...
Une sorte de la bêtise, je dirais que ça serait... je vais pas le dire le nom complet. Pierre-Luc, coach Gilbert, nous écoute. Là. C'est lui qui nous a dit.
Tu l'appellerais le tsar?
Oui, il y a plusieurs noms qui sont sortis, pour vrai, pour donner des idées. Là. Vincent Guzzo, le tsar du cinéma. Alexandre Taillefer, le tsar du taxi. Olivier Primo, le tsar du bon goût. Martin Picard, tsar du guide alimentaire. Éric Lapointe, tsar de la condition féminine. Ah non, ça, je pense que c'était une
non,
joke.
Non, ça, c'était une joke. Hey, il y a des neigeurs qui nous ont écrit, puis je te salue, mon ami. Les neigeurs ont fait à peu près 24 heures en ligne, puis ils ont fait une petite pause dans les dernières heures, puis ils ont recommencé à 7 heures ce matin. Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait. Est-ce que tu te souviens du meurtre de Saint-Anselme, il y a de ça quelques semaines?
Tu me l'as rappelé.
Ouais, Victoria Barry du Soleil a écrit un super de bon papier à cet effet-là. Le titre, c'est « Meurtre à Saint-Anselme ». Le message ne s'adressait pas à elle. Parce qu'effectivement, avec ce qui s'est passé, puis je vais vous raconter ce qui s'est passé, on va se remettre un peu dans le contexte, bien entendu. Avec ce qui s'est passé, on a l'impression que c'est un message qui était lancé dans le cadre de la fameuse guerre entre les motards et les gangs de rue. Et cette femme-là, c'est une femme de nationalité française. Son nom, c'est Justine Hertemann. Et elle a succombé à des blessures par balle sur son lieu de travail le 28 novembre dernier. Elle travaillait-tu dans un bar? Non. Elle travaillait-tu dans un endroit où ça brassait, où elle était susceptible de se faire tirer? La réponse, c'est non. Elle travaillait dans un genre de commerce, là. Genre de semi-quincaillerie.
Un genre de détail là, qu'on connaît, qu'on a déjà vu. Là.
Exact. Ça s'appelle « Au mini-prix ». Puis, on a laissé le commerce à ce moment-là. On l'a laissé ouvert plus longtemps que d'habitude parce que d'habitude, il fermait à 18 heures. Mais leur patron, pour cette journée-là qui était spéciale puisque c'était le Black Friday, a demandé à Justine et sa collègue de rester jusqu'à 21 heures. Et à 20 heures, il y a un gars qui est rentré dans l'endroit au mini-prix. Elle était avec sa collègue à ce moment-là. C'est une femme de 25 ans. Et le gars, sur son téléphone cellulaire, il a fait écouter un message. Et sur le message, on entendait qu'il fallait que Justine lui donne la caisse. Et au moment où il lui a donné l'argent, le gars l'aurait tiré directement d'en face, au niveau du visage. Puis là, tu comprendras que la victime s'est effondrée aussitôt. Et,
tellement violent, là. C'est tellement violent que la première affaire que je me disais, là, c'est « As-tu été stressé puis il n'a pas fait exprès? » Tellement ça n'avait pas de sens. Que c'était déluré comme comportement là, pour un vol de caisse. Là.
Je continue l'histoire. Justine avait un conjoint.
Mm-hmm.
Et sa conjointe avait toujours l'habitude d'arriver quelques minutes après la fermeture du commerce. Il était un peu inquiet, donc il part. Il s'en va directement sur le lieu du commerce. Et arrivé, il voit les services policiers qui sont là et demande « Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ma conjointe est en dedans. » Et c'est ce policier qui a appris le meurtre... au conjoint de Justine. Donc là, tu comprends que ces gens-là sont incapables de fonctionner présentement, sont dans l'attente. Là, la Sûreté du Québec qui essaie de faire des pieds et des mains pour essayer de retrouver cet individu-là qui a tiré. Malheureusement, ils ne l'ont pas encore trouvé. Il y a eu des postes de commandement qui ont été faits dans les dernières semaines pour avoir un peu plus d'informations. Là, c'est pas une grosse ville, là. C'est une bourgade, là, Saint-Anselme. Tout le monde se connaît, c'est très petit. Tout le monde connaissait Justine, mais il n'y a personne qui sait exactement ce qui s'est passé. Mais ce qu'on croit au niveau des services policiers, c'est que ça aurait probablement un lien avec la guerre des motards et
la violence urbaine.
Les gangs de rue.
Oui.
Mais ça, c'est vraiment une victime collatérale.
Mais de ce qu'on comprend, oui, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis c'est ça. Moi, je pense que ça devrait être un dossier qui est prioritaire parce que par tout ce qui concerne les victimes collatérales devrait être des dossiers prioritaires. En ce qui concerne la résolution d'eux, l'énergie, les moyens devraient être multipliés dans ces cas-ci.
Oui. Tu sais, elle a essayé de ramasser son argent pour fonder une famille avec son conjoint au Québec. Elle gagnait 19$. Elle était contente, elle pouvait faire plus d'heures parce que c'était une journée spéciale à ce moment-là, c'était le Black Friday. Malheureusement, il y a un individu qui avait une job à faire puis qui a décidé de la tirer comme ça. C'est une histoire extrêmement triste, là.
Si on fait un lien avec le crime organisé puis les déboires de tout ça, Yannick, il y a des propriétaires d'un immeuble. L'immeuble a été ravagé par un incendie et eux, ils ont poursuivi leur compagnie d'assurance parce que la compagnie d'assurance a refusé de les indemniser parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un prétexte comme quoi le bâtiment a été loué par un groupe de motards criminels. Donc, on allègue que les propriétaires, c'est des résidents de l'île d'Orléans, dans la poursuite de 1,3 million de dollars qui ont été intentés contre Intac Assurance, mais que le bâtiment en question a été complètement détruit par les flammes là, en 2023, et justement sous l'emprise de gens qui font partie de groupes motards criminels. Puis, dans le document judiciaire, on voit que les propriétaires affirment qu'Intac Assurance a refusé de les indemniser, vu le fait que ces propriétaires-là sont liés à des troubles de rue. Mais on assure que les propriétaires ignoraient toute fréquentation de leurs locataires. Hey, c'est un déboire, ça. Je savais même pas que tu pouvais faire ça quand tu étais une compagnie d'assurance. Ouais.
Il y a eu un cas dans l'actualité, puis tu me diras si ça a un lien avec ce que tu es en train de parler. Là. Une fille qui avait un élevage d'animaux, qui avait une genre de petite fermette. Elle avait un conjoint qui était un Hells Angels ou qui était un proche des Hells Angels. La fermette a passé au feu et la compagnie d'assurance, en raison du fait qu'elle sortait avec un gars qui habitait là et qui faisait partie des motards, c'était un criminel. La compagnie d'assurance a dit « Non, je suis désolé. »
C'est une histoire de plus qui s'ajoute.
On paye pas.
C'est fou, là. Ouais. Mais en même temps, tu comprends que c'est un risque au même titre que, je sais pas moi, c'est une manne d'essence à côté de chez toi, ça existe pas, mais mettons que tu avais un puits d'essence. Là. C'est un risque, donc probablement que ta prime te coûterait plus cher puis tu devrais accuser réception que si ta maison passe en feu, vu ce risque-là. Mais à quel point tu peux en être sûr?
Ouais.
C'est particulier.
Il y a Promutuel en bas, je me permets de le dire, parce que moi, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. Là. Je les avais appelés, j'avais appelé un courtier en assurance, puis ils m'avaient demandé ce que je faisais comme job. Fait, là, je lui ai dit que je travaillais à la radio, puis ils m'ont dit, on n'assure pas les gens qui travaillent dans les médias.
T'étais-tu ici à ce moment-là?
Non, je suis en Beauce. Okay. On n'assure pas les gens qui sont dans les médias.
Ouais.
Puis en parlant un peu avec deux, trois autres, je n'étais pas le premier qui avait appelé cette entreprise-là puis qui se faisait refuser ça. Je ne sais pas si ça a changé. Je ne sais pas si ça dépendait du courtier. Mais le courtier avait dit, ah, malheureusement, on va être obligé de mettre un terme à notre conversation parce qu'on n'assure pas les gens des médias. Puis ce qu'il me disait, il était très cool. Là. Il me disait, c'est parce que si tu es à radio, live, ça veut dire que tu n'es pas chez vous. Ouais. Ben, c'est un peu comme si t'en vas en voyage puis t'écris sur Facebook que tu es en voyage puis la maison...
C'était leur vision.
La maison est libre. C'est comme ça qu'ils me l'avaient expliqué. Tu sais, tu comprends que moi, j'avais pas...
C'est pas comme si t'avais du gros stock, là.
J'avais pas cherché à en savoir plus.
Sans méchanceté. C'est quoi, ils vont te voler ton linge Costco?
Parler de mon linge? Non, mais j'ai...
Tu sais, mettons qu'ils savent que t'es en onde, ils vont aller voler ton linge Costco.
Non, non, mais j'avais une belle télé à l'époque.
OK. 3-4 paquets de biscuits.
Ah, peut-être.
Peut-être. Ta vieille manette crottée de chip au ketchup.
Oui. Et compagnie d'assurance, là, je salue tout le monde là, qui travaille dans le merveilleux monde de l'assurance. Là. Mais ils en font beaucoup pour t'avoir comme client.
Ils en font peu pour t'indemniser.
Mais s'ils peuvent ne pas t'indemniser puis regarder une virgule ou regarder un mot qui a été écrit de travers ou une réponse que tu as donnée qui n'était pas tout à fait exacte, ils vont retourner dans les tapes parce que quand tu le jases, toi, tu es enregistré. Tu le dis au départ, là, cet appel peut être enregistré dans le but de la qualité puis être documenté, tout ça. Si jamais tu dis une petite coche pas correcte, ils vont tomber là-dessus puis peut-être te faire suer.
Oui. Puis s'ils peuvent augmenter ta prime aussi, il y a quelqu'un qui a eu un accrochage, mais très, très bénin là, dans les derniers mois, qui a appelé sa compagnie d'assurance. Puis, tu sais, elle ne veut pas que ça pogne la rouille sur son char. Mais une fois que c'est rayé, ça peut pogner la rouille. Puis elle en prend super soin, super, super soin. Fait qu'elle dit, bien, je vais aller voir c'est quoi les dommages. Parfait, la compagnie de l'assurance l'envoie dans un garage. Rendu au garage, le garage veut lui faire signer un papier qui dit... Extra, on évalue, puis après ça, on commande les pièces, puis on fait le travail. Mais elle est en train de se défendre en se disant, « Mais attendez, on va voir les dommages, puis je vais prendre ma décision si ça amène à augmenter ma prime, mais c'est quelque chose que je peux faire avec des gens que je connais ou ailleurs,
ouais,
ou
non,
je le ferai pas. » Mais il y a un... Est-ce qu'elle m'expliquait qu'il y a un monsieur qui venait pas du Québec qui lui, avait une autre façon de faire, qui a fait, « Mademoiselle, venez dehors, on va checker. Signez pas, venez-vous-en. » Puis là, il a checké, puis il a dit, il a dit, t'as-tu un chum? Là, comme oui. Elle dit, dis à ton chum là, de prendre un polisseur. Là, le poli, telle affaire. Ça, c'est en plastique. Ça te dérange pas l'esthétique? Pas de problème. Laisse ça de même. L'autre bord, ça touche un peu le métal, le fer. Là. Polis ça, peinture ça. Tu vas être bien correct. Demande à ton chum. Lui, c'est sûr que dans sa tête, c'était son chum qui allait le faire. Mais ça me ferait. Puis elle dit, hein? Tu sais, on chale bien là, sur du monde, des fois, qui vient d'ailleurs, tout, mais nous, ce qui est bureaucratie, des fois, là, c'est bien plus lourd que, justement, tout ce que tu veux aller voir pour ta propre personne qui nécessite 5 minutes au final.
Pogne un petit dégât d'eau. Chez nous, le lac avait débordé, puis il y avait de l'eau qui était entrée dans le sous-sol. Fait que là, moi, je dis à la mère de mes gars, moi, je vais m'en occuper. Elle dit, non, elle dit, on va appeler la compagnie d'assurance. Fait que j'appelle la compagnie d'assurance. C'est bon, on vous envoie quelqu'un. Là, c'est une compagnie privée en Beauce qui fait du après sinistre, là. Et là, le gars me dit, moi, je me déplace jamais en bas de 10 000. Fait qu'il a trouvé pour 10 000 piastres de job, alors que moi, j'aurais très bien pu le faire moi-même.
Ah, c'est crétin.
Puis dire à la compagnie d'assurance, regardez, moi, j'ai acheté tel produit, puis je ne changerai pas mon temps. Remboursez-moi les produits que j'ai achetés, puis ça va bien aller. Eux autres, là, ils ont tout coupé. Ils ont mis des appareils ultra technologiques pour faire sortir toute l'humidité qu'il pouvait y avoir dans la maison, alors qu'il n'y en avait pratiquement pas. Là. On avait déjà tout fait sortir.
En même temps, c'était à neuf, là, rendu là chez vous.
Oui, je le sais, mais ça augmente ta prime d'assurance.
C'est sûr. Vas-tu, elle sortait de là, de mémoire, là, entre 8 000 et 10 000.
Ouais.
C'est un frôlement de voiture.
Ben, quand il dit, moi, je me déplace jamais pour 10 000, quand il arrive à une place, tu peux être sûr qu'il te trouve de la job pour 10 000.
Mais il y a beaucoup de difficultés pour les compagnies d'assurance là, en ce moment. Là. il y a eu beaucoup de feux de forêt, il y a eu beaucoup d'inondations au Québec hein, dans les dernières années, au Canada aussi. Ça a coûté des milliards de dollars aux compagnies d'assurance. J'ai la prétention de croire que s'ils peuvent couper à quelque part, des fois, ils vont le faire.
Ouais. 11h53, on fait une courte pause. L'excellent Denis Gravel s'en vient tout de suite après la pause. On parlait, bien entendu, du Grand Orange et de plein d'autres dossiers qui touchent Québec. Entre autres, un sondage sur les pistes cyclables. J'ai été vraiment surpris du résultat. On s'en parle tout de suite après.
Marceau. Ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Ça.
C'est le Pit Stop, Denis Gravel, qui est en place. Pascal CV qui est là pour nous accompagner. On va être là jusqu'à quoi? 12h30 avec le Pit Stop. Plein de sujets à jaser avec vous autres. D'ici là, si ça vous tente de participer à la conversation, c'est le 418-971-1021 par texto ou encore les gens qui veulent aller sur l'application Twitch. Vous allez avoir la chance de voir Pascal CV chialer. Mais avec une image visuelle.
Ben voyons, c'est quoi ça? J'aimerais ça savoir justement c'est quoi mon rôle dans le Pit Stop. Est-ce que c'est le rôle de toujours là pour ramasser votre intimidation ou encore en appui pour, je sais pas moi, faire rire le monde? C'est très, la ligne est fine entre les deux.
C'est peut-être, c'est juste qu'aujourd'hui, on a tout dit ce qu'on avait à dire sur la situation entre le Canada et les États-Unis hier.
Oui.
Puis là, il faut comme en parler encore.
C'est
Mais on n'a pas le choix en même temps.
Oui, puis by the way, les auditeurs qui ont engagé 2$ avec moi hier, comme quoi on allait avoir les tarifs, et moi, je vous ai dit que c'était encore du maudit bluff du gros orange l'autre bord. J'attends votre 2$ à la station.
C'est ça un virement Interac que tu souhaites?
Non, ça me prend un 2$ en métal. Ils viennent me le porter ici à la station, puis ils me disent, ils me regardent dans les yeux quand ils me le donnent.
Sérieux?
Pardon, mon nom. Ah non, le gros orange qui a fait trembler le Mexique, qui a fait trembler le Canada. On en parlait il y a de ça quelques jours, nous trois. Il y a quelque chose de positif à retirer de tout ça, c'est qu'on va commencer à s'organiser nous autres mêmes parce que les États-Unis sont bien organisés. Nous autres, entre provinces, faut en faire du troc. Faut s'échanger des choses. Faut en importer, faut en exporter. C'est tellement compliqué, ça n'a pas de bon sens. On est un seul pays, puis on a l'impression qu'il y a des frontières en chaque province.
Écoute, faut plus jamais que le pays se retrouve dans cette situation-là. Cette situation-là de faiblesse extrême, de dépendance extrême à un seul client, à un seul fournisseur. Puis il y a un paquet de facteurs qui rentrent là-dedans. La façon dont Justin Trudeau a étiré son mandat, moi, ça fait partie des choses que j'ai encore dans la gorge. Oui. J'aimerais qu'on empêche des premiers ministres d'agir comme ça.
Surtout dans une situation critique où le Parlement est paralysé pendant des semaines et des semaines dans l'attente d'un futur chef du Parti libéral du Canada.
Je dis pas qu'il a fait un mauvais travail dans la dernière ou les dernières semaines, mais ça fait partie des facteurs, l'étirement de ce mandat-là qui a placé le Canada dans la position où il est. T'as parlé du commerce entre provinces, je pense que là-dessus, tout le monde s'entend. La diversification des clients. En fait, je regardais où est-ce qu'on exporte réellement le fentanyl au Canada, puis il faudrait peut-être copier le modèle d'affaires des criminels. Parce que le fentanyl, on ne l'exporte pas aux États-Unis, hein, on l'exporte au Venezuela et ailleurs dans le monde. Quoi que Trump en dise, faut peut-être copier le modèle d'affaires à toutes nos entreprises, je ne sais pas.
Quelques laboratoires qui ont été démantelés. On a demandé à ce que les cartels mexicains soient vus comme des terroristes maintenant au Canada, ce qui fait en sorte que les États-Unis vont aider tant le Mexique que le Canada à se débarrasser de ses aliens.
Mais c'est toutes des choses qu'on aurait pu négocier sans passer par la menace des tarifs puis l'espèce de psychose de guerre économique qu'on a connue dans la dernière semaine, je pense.
Est-ce qu'on doit dépendre constamment des États-Unis? T'sais, la réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut diversifier nos exportations et nos importations ailleurs qu'aux États-Unis pour que, justement, lui ou le prochain ait pu une si grande mainmise sur nos décisions? Nous autres,
mais faut se parler. Moi, j'ai le goût de vous demander, les gars, c'est quoi les solutions pour garder cet engouement-là? Parce que moi, j'ai l'impression que ça va faire comme en pandémie, laver son épicerie, ça a tenu 2-3 semaines, sans plus. Là, je sais pas qu'il faut ramener ça. Sauf que...
Saluer les gens qui ont tenu leur boycott 24 heures. Bon courage, gars.
Ils sont réinscrits à Netflix hier soir.
Oui, hier soir, c'était correct.
Je veux pas rire parce que c'est quand même des gens qui ont pris action pour essayer de mettre la main à la pâte comme ils pouvaient, s'ils n'ont pas d'entreprise, s'ils n'ont pas de courant de navigation entrepreneuriale. Comment est-ce qu'on va faire pour garder ce sentiment-là, cette envie-là, autant pour les citoyens que les provinces et les entrepreneurs?
Puis la question de fond, est-ce que c'est possible de ne pas être dépendant d'un voisin aussi gros et aussi fort? On peut essayer, puis j'imagine qu'on va essayer politiquement, économiquement dans les prochaines années, mais on reste avec le même voisin qui a la même influence sur le reste de la planète. Les autres pays sont pas mal plus loin, c'est pas nos voisins. On peut améliorer notre commerce intérieur, ça je suis convaincu de ça, mais est-ce qu'on peut diminuer tant que ça l'influence que les États-Unis ont sur notre pays? L'expérience va être intéressante.
Je ne sais pas si tu as lu le Journal de Québec aujourd'hui. J'imagine que tu as lu quelques articles, bien entendu. Il y a un article qui parle de consommation. On se pose la question, ces produits sont-ils vraiment canadiens? T'as-tu vu la photo qu'ils ont prise?
Non.
Regarde ça, man. Le monsieur a genre 75 ans. Il regarde des bananes. Derrière lui, il y a des bananes puis des ananas.
Ouais.
Puis la question, c'est ces produits sont-ils vraiment canadiens?
Je pense pas.
Quand tu lis l'article, mais quand tu lis l'article, c'est correct, parce que là, on parle vraiment de produits qu'on importe
oui,
mais au Canada.
Pauvre mais... vieux monsieur, il est d'un banane.
Mais moi, ça, c'est mon père, là.
Oui.
Moi, je fais ce journaliste.
Oh!
Non, tu peux pas faire ça à mon père. Là.
Demande poliment des excuses.
Oh! Tu l'as vu?
Il a peut-être été payé, je sais pas.
Mais non, il a pas été payé. il regarde les bananes.
Non, mais il fouillait dans les sacs d'épicerie aussi hier. Hey, sérieux, tu sais, je veux dire,
mais si on voulait mettre en image la confusion, là, je pense qu'on a créé une œuvre d'art.
Peut-être qu'il faudrait... Ouais, attends, quelle confusion.
C'est canadien, ces bananes-là, là, je suis tout mêlé. Mon nom!
Avec les ananas en arrière. Non, je vous dis, allez voir ça sur le site Journal de Québec. Là,
on est de mauvaise foi.
Non, excuse-moi, on est de très bonne foi parce que j'ai spécifié.
Tu le défends, je sais.
Quand
mais...
tu cliques sur l'article, les produits qui sont à l'intérieur sont corrects. Mais le monsieur.
Mais ça me fend le cœur, ce pauvre homme.
Je suis pas sûr s'il y a un beau-frère, mais s'il y en a un, c'est clair qu'il l'écœure avec ça au party de Noël.
Écoute! Lui,
il
s'est fait dire que Beau Dommage chantait Montréal. Fait que tous les palmiers, tous les bananiers, oh! C'est dit, c'est dans le coin. Dans le coin de Montréal, ça doit être sur le Mont-Royal.
Ah non, c'est lui.
Pauvre petit, peut-être encore dans l'épicerie, là, qui sait.
Oui. Pas sa nuit, là, en avant des bananes.
Oh. Mais bref, Trump, sans que ça lui coûte une scène de plus, a quand même réussi à renforcer. Je pense que le mot est. C'est important de mettre entre guillemets renforcer parce que ça coûte de l'argent pour la sécurité des États-Unis, bien entendu. Il a quand même réussi à renforcer les frontières entre le Mexique et le Canada, et ça y a pas coûté une cent, tandis que de notre côté, ça va être 1 milliard, puis de l'autre bord au Mexique, ça va ressembler à ça aussi.
Écoute, c'est un tour de force. Il a augmenté son influence, puis probablement que ça aurait pas toffé longtemps si on se serait lancé dans une guerre tarifaire. Fait que si c'était ça son plan, ça fonctionne à merveille, puis il y a des choses qui mentent pas, Yann. Le copier-coller du communiqué du Canada et du communiqué du Mexique, avec des mots qui ne nous appartiennent pas. Penses-tu que Justin Trudeau s'est dit « Je vais inventer le poste de tsar du fentanyl
ouais, » J'aime ça, moi.
Qui utilise le mot « tsar »
Les Américains, honnêtement.
C'est les Russes.
C'est les Russes et Donald Trump.
Non, mais les Américains ont déjà nommé un tsar. Pour eux, là, c'est pas la même définition que nous, parce que moi, j'ai tellement ri hier, j'en ai pleuré, j'en ai eu mal au ventre. J'ai relu 3-4 fois la phrase. Je me suis dit « Il faut qu'il y ait une explication. »
Mais ça montre que le Canada n'a pas écrit
C'est pas
le,
la même définition
communiqué.
Franco-anglo. T'sais. Là, c'est eux, c'est un haut lieutenant et tout, mais t'arrives pas... Justin Trudeau qui parle en français d'un tsar.
Mais là, vous nous écoutez, vous êtes sur l'heure du midi, là. Je veux que vous arriviez à job cet après-midi pour demander un poste de czar.
Pourquoi tu dis czar? C'est la façon de le dire?
Czar.
Ou c'est juste plus pédant?
Je sais pas, mais Justin Trudeau quitte le poste de premier ministre, puis lui, il se voyait déjà se déguiser en tsar impérial russe.
À la frontière, le tsar du fentanyl.
Ah non, c'est juste incroyable ce qui se passe. Puis de voir que ça gonfle encore son égo, il a fait trembler tout le monde. Là, c'est les Chinois qui sont un peu moins contents parce qu'ils ont la fameuse surtaxe de 10 %. Mais pour ce qui est du Mexique et du Canada, on a vraiment eu peur pour des jobs. Là.
Ah oui. Ah oui, puis de la façon que ça a été orchestré. Parce que je pense qu'on le saura jamais, là. Si c'était un bluff habile, puis qu'il savait qu'il n'y avait pas tant de marge de manœuvre que ça, mais que c'était ça qu'il voulait avoir comme impact, puis qu'il se disait « en l'espace de 24 heures, je vais faire plier au nord et au sud », c'est pas une forme de politique que j'aime ou que je respecte beaucoup, mais on va être obligé d'y donner. Il a gagné sur toute la ligne. Si on s'était retrouvé, Yann, en guerre tarifaire pendant 2 semaines, je suis pas sûr qu'il gagne aussi haut la main, même s'il réussit à avoir, mettons, la même entente avec les mêmes déclarations.
Mais il n'y a rien de bouclé, il n'y a rien d'impossible encore. Il ne faut pas parler, il ne faut pas crier victoire
mais,
tout de suite.
Ben oui, parce que ça passera pas. J'entendais Farnell ce matin parler du Sénat puis du Congrès, là, mais en même temps, il est républicain. Fait que, ça servira à rien. Mais l'Organisation mondiale du commerce, c'est sûr qu'il n'aurait pas laissé passer ça. C'est clair qu'il n'aurait pas laissé passer ça. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que Trump peut, il peut gonfler son ego, mais il ne peut pas continuer à nous menacer de nous surtaxer constamment.
Constamment bullshité, là, comme il a fait, finalement. Là. Puis, tu sais, en fait, il a pris une chance, il ne pourra pas le faire. Personne ne va y croire par la suite. Il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il manipule son information comme il aime la manipuler, mais il faut que ça soit efficient. Par contre, là où je pense que ce n'est pas sûr que c'est terminé, c'est qu'il va trouver une autre raison. Il veut tellement changer de choses, mettre ça à sa main, qu'il va trouver une autre raison pour laquelle ramener ces tarifs-là, je crois.
Il dit aux Américains, le Canada est dur, ils sont pas gentils, on n'a pas de banque américaine au Canada, alors qu'on en a 19 banques américaines au Canada. C'est quelqu'un qui ne se gêne pas de mentir pour pouvoir faire gonfler son ego, pour gonfler son image, mais n'en demeure pas moins qu'il a réussi à avoir ce qu'il voulait.
Puis étant donné qu'on n'est pas entré en guerre tarifaire, ben il y a plein de choses qu'il a dit qu'on ne peut pas vérifier. Donc, les partisans de Trump vont prendre ça comme étant une vérité. Tu sais, quand Trump dit « on n'a pas besoin de rien du Canada », c'est-tu vrai, ça? Il n'y aura pas d'impact aux États-Unis de cette guerre tarifaire. C'est-tu vrai, ça?
C'est faux.
Ouais, c'est faux. Moi, je pense que c'est complètement...
Sur Fox et CNN, là, tout le monde était contre Trump.
En l'espace de quelques jours ou de quelques semaines, aux États-Unis, on aurait vécu les impacts négatifs. Mais là, c'est resté un bluff. Il a gagné. Il a eu ses déclarations au Canada et au Mexique. Et les détracteurs et les sceptiques ne peuvent pas vérifier la véracité de ces informations. Fait qu'on se retrouve encore dans le fameux « croit ou meurt », ce qui est toujours ça avec Donald Trump. Là. Les gens qui trippent dessus gobent tout ce qu'il dit et les autres, ben, ils tombent dans l'âme puis ils l'haïssent encore plus. Mais la situation fait en sorte qu'on n'est pas en état de rien vérifier. La guerre n'a pas eu lieu et il a gagné cette guerre-là parce qu'au Canada et au Mexique, on a plié les genoux.
Denis Gravel, je vais faire appel à ton calme intérieur. Parce que je vais te parler d'un sujet, puis je te connais un peu. Ça se peut que tu sortes un peu de tes gants, mais je vais commencer très soft en te parlant du papier que j'ai lu ce matin, que je trouvais intéressant. On parlait des fameux employés québécois qui ont été sacrés dehors par Amazon, qui ont été rencontrés par Radio-Canada. Puis, pour la plupart, ils ne décolèrent pas le fait qu'Amazon décide de quitter. Donc, plusieurs entrepôts de l'entreprise américaine qui s'apprêtent à fermer. Eux, ils demandent non seulement une meilleure compensation, mais aussi qu'Ottawa et Québec, tout comme les municipalités, coupent tous leurs liens commerciaux avec la multinationale. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent rétablir la justice pour les travailleurs lésés et leur représentant, son nom, c'est Félix Trudeau. Je ne sais pas s'il y a de la graine de Justin, mais il s'appelle Félix Trudeau. C'est le président des syndicats des employés d'Amazon à DXT4. Donc, moi, on m'avait rapporté que le gars était un peu weird. Le chef de ce syndicat-là chez Amazon, on m'avait rapporté qu'il était un peu weird, mais j'avais rien pour servir d'exemple. Mm. Je vais te faire entendre l'extrait. Garde tes mains sur la table. Éloigne tout ce qu'il y a proche de tes mains. ouvre ton micro, ça va aller mieux.
Comme ça?
Oui.
J'ai juste dit en même temps, mords-toi à l'intérieur des joues, on va être servi.
J'ai pris de l'avance. J'ai pris de l'avance. Fais-le entendre aux auditeurs, mais moi, je l'ai écouté une couple de fois dans le bureau pour pouvoir sortir de la vapeur. on apprend avec le temps. Hein.
Montez le son dans votre véhicule. Là. Ça, c'est le président du syndicat des employés d'Amazon au Québec. Je vais essayer de vous faire entendre ça dans les prochaines secondes.
On ne peut pas juste accepter la défaite comme ça. On ne peut pas juste dire « OK, la fermeture va se passer, puis on rentre chez nous ». Non. La multinationale du Calis qui a fait ça, il faut qu'elle apprenne que si elle fait ça à classe ouvrière du Québec, il y a un coût. Puis c'est pas juste le coût de le sous-traiter, blablabla. Bla. Il faut que ce coût-là, ça soit très profond. Il faut que ça fasse mal. Puis il faut que les multinationales américaines comprennent que s'ils s'en viennent faire chier la classe ouvrière du Québec, ben ça va leur coûter cher en esti.
Il y a des gens qui applaudissent, là. Ils ont tous perdu leur job.
Mais on a déjà vu ça.
La crise du bacon de l'enfant roi parvenu qui nous parle de la classe ouvrière du Québec qu'il n'a jamais connue.
Jamais. Moi, Pascal...
5000 jobs se sont perdus à cause de lui puis de sa gang de clowns. Puis il parle de même.
Il
devrait se cacher en dessous d'un tapis, en dessous d'une roche, s'exiler. Il devrait avoir honte à cause de mes petites montées prince syndical, de tsar du graissage de pattes. Il y a 5000 jobs qui se sont perdus au Québec.
Parce que quand t'es représentant syndical, là, t'es pas supposé te faire fermer une shop, t'es supposé de justement la garder mais avec les meilleures conditions possibles. Si on prend la définition de... Fait que c'est sûr que ce gars-là, oui... À mon sens aussi, il devrait se poser de bonnes questions sur la qualité de son travail.
Les excès syndicaux du Calis, veux-tu qu'on en parle, tipit? 5000 jobs de perdus à cause de toi, la classe ouvrière du Québec. Ça te tente-tu d'aller parler à ton grand-père? Il va te conter comment est-ce que c'était travailler dans les usines dans le temps. La classe ouvrière, tu l'as jamais connue, t'es parvenu. Ça n'existe plus
pourquoi
au Québec.
Pourquoi ça vient autant...
C'est terrible comment ça m'insulte.
Pourquoi ça vient, autant t'insulter?
Ces gens-là n'ont rien connu.
Je déteste l'hypocrisie. Je déteste l'hypocrisie de gens qui disent qu'ils se battent pour les ouvriers, alors que les syndicats, c'est rendu les fat cats qui boivent sa job sur l'heure du midi avec l'argent des cotisations syndicales, comme les boss de la FTQ Construction. Puis après ça, ils engagent des firmes pour savoir c'est qui le rat qui a donné de l'information aux journaux. Bois pas sa job, puis t'en auras pas de problème. Gang de fat cats.
On est loin de Michel Chartrand.
Ah, tabarnouche, come on.
On est vraiment loin.
La classe ouvrière du Québec, ça doit faire 30 fois que je l'entends depuis une heure, puis je manque m'étouffer à toutes les fois.
OK. Bon, il y a quelqu'un qui me demande, peux-tu la remettre? Montez le son.
On peut pas juste accepter la défaite comme ça. On peut pas juste dire, OK, la fermeture va se passer, puis on rentre chez nous. Non. La multinationale... du calice qui a fait ça, il faut qu'elle apprenne que si elle fait ça à la classe ouvrière du Québec, il y a un coût. Puis c'est pas juste le coût de le sous-traiter, blablabla. Il faut que ce coût-là, ça soit très profond. Il faut que ça fasse mal. Puis il faut que les multinationales américaines comprennent que s'ils s'en viennent faire chier la classe ouvrière du Québec, ben ça va leur coûter cher en esti.
Le pire, c'est qu'on a tout donné aux syndicats au Québec. Fait qu'à la limite, on peut même pas en vouloir à des enfants de cette génération-là de penser que le syndicat est plus fort que tout. Et même quand la réalité s'invite au party, ben, ils sont pas capables de regarder la réalité en face puis de dire « Ah ouais, peut-être que ça marche de même au Québec, mais peut-être que dans le reste de la planète, ça marche pas de même. Puis peut-être que des petits culs enfants rois, crise de bacon comme moi, ils veulent pas trop en gérer Amazon ou Walmart ou McDo. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un s'essaye pour les bonnes cotisations syndicales, mioum mioum mioum, pour aller boire du Lagavulin 16 ans, ça a job le midi, ben peut-être que les entreprises décident de juste dire « Ben regarde, nous autres, le Québec, c'est une pinotte, là. »
T'es une entreprise internationale, puis tu regardes comment ça se passe, là, comment ça gère les business au Québec.
Je veux pas ce gars-là comme employé.
T'entends ce gars-là, là. Tu veux-tu vraiment aller t'établir au Québec?
Pour qui tu travailles? Pour Amazon du calice? C'est comme ça que tu qualifies l'entreprise, que tu portes le crest? Regarde, ça va être correct, je sais pas comment. On va se passer de toi.
Puis dans sa tête, lui, il est persuadé que les entreprises internationales qui viennent s'établir ici, là, c'est une chance pour eux de venir s'établir ici.
Les jeunes, voyager, aller voir la réalité ailleurs, des fois, ça fait du bien. Ça fait mal, des fois. Mais ça peut faire du bien aussi. La classe ouvrière n'existe plus au Québec. Ailleurs, elle est encore bien réelle, elle est encore bien présente. Il y a des combats à faire là-dessus. Il y a des injustices là-dessus. Mais essayez pas de nous faire passer pour des gens misérables. Il y a 5000 emplois de qualité qui ont été perdus au Québec à cause d'une lutte syndicale qui, tout le monde le savait, allait se ramasser dans le mur. Tout le monde savait qu'Amazon allait fermer l'entrepôt. Ils ont continué pareil. Ils ont ça sur le dos. Ils sont même pas conscients que c'est de leur faute.
Prochain sujet, Denis, on parle d'un sondage.
J'ai pas fini. Non, c'est pas...
c'est une joke, c'est une joke. J'aime beaucoup les sondages, même ceux qui vont pas dans le sens où j'aimerais que ça aille. Là, parce que moi, j'ai l'impression que j'ai quand même un bon pif. Là. Si tu me poses des questions sur des trucs qui touchent Québec, je suis capable de te dire, en toute honnêteté, vers où la population va aller.
Ben si on connaît pas notre monde, on fait pas notre job comme faut. Là.
Sauf que ce matin, si tu m'avais posé la question, j'aurais pas eu les mêmes résultats que le sondage Chôme le soleil.
OK. Okay.
Moi, j'ai l'impression, puis il ne faut pas faire un genre de sondage autour de nous parce qu'on est un peu biaisé, on s'entoure des gens qui sont un peu comme nous. On a un biais aussi qui fait en sorte qu'on choisit bien ce qu'on veut choisir pour se conforter dans ce qu'on croit comme étant la vérité.
Ah, mais ça, c'est de la pauvreté intellectuelle là, et de raisonnement. Je suis vraiment désolé. Mais
tout le monde a ça. Fait que c'est pas tout le monde qui sont pauvres intellectuellement. Là.
Je pense que c'est un réflexe humain.
Ouais, exact.
Mais je pense que de contrecarrer ce réflexe-là. C'est là où l'intelligence prend forme.
Exact. Fait qu'il faut toujours sortir un peu de son entourage pour savoir comment ça se passe. Mais ce matin, bien humblement, je me serais trompé sur les résultats attendus du sondage Somme le soleil. On a posé la question aux Québécois, Québécoises. 800. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais Yann, il n'y en a pas 1000, c'est pas valable. » Bon, 800, OK? Et on voulait savoir si les pistes cyclables déneigées, ça faisait l'affaire des gens de Québec. Si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit un bon 60-40, c'est-à-dire 60% des gens qui disent « Bon, un peu cyclable, déneigé l'hiver, ça n'a pas de maudit bon sens. » Puis un bon 40% qui dit « Ben, les déneiger de façon partielle. Oui. » Ça aurait été ma réponse à moi.
Mm-hmm.
Ça aurait été quoi, toi?
Je te laisse terminer, puis après ça, je vais te donner ma version des choses. Je vais utiliser une phrase que j'utilise souvent, « Le diable est dans les détails. »
Tout juste à la majorité, 52 % des répondants se disent totalement ou plutôt favorables au fait que la Ville de Québec déneige des voies cyclables de son territoire en hiver. Les opposants, dont je fais partie, parce que je trouve qu'en plein mois de janvier, plein mois de février, avec des températures de moins 15, moins 20, déneiger des pistes cyclables, ça va juste faire en sorte qu'on va travailler pour rien. Je fais partie des opposants. On est à 44 %, puis il y a un 4 % des gens qui ne se prononcent pas.
Donc, combien de pourcentage est en faveur?
Plutôt favorable, 32 %. Totalement favorable, 20 %. Donc, on est à 53 %, 52.
Est-ce que tu as la question précise sous les yeux qui a été posée aux gens qui ont répondu au sondage?
Oui, parce qu'on s'est déjà fait avoir dans le temps avec ça, hein?
Non, mais c'est parce que y a beaucoup de mots qui sont pas utilisés et il manque une question primordiale à ce sondage.
Je vois sur quoi t'as bogué. Okay. Êtes-vous favorable au fait que la Ville de Québec déneige certaines voies cyclables de son territoire en hiver?
Est-ce que certaines fait partie d'un mot sur lequel t'as accroché?
Bien, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est que la question n'est pas posée dans un contexte. Je vais te poser la même question, mais je vais rajouter un petit peu d'enflure verbale autour. Êtes-vous favorable ou plutôt favorable au fait que lorsque vous allez glisser avec votre char sur Laurentien parce que c'est pas déneigé et que vous allez prendre une sortie, vous allez constater que la piste cyclable est mieux déneigée que les routes? Déjà là, on est dans un contexte différent. La question est posée comme on pose la question, êtes-vous pour la tarte aux pommes? Même si j'en mange pas, j'ai pas vraiment de raison d'être contre. On me demande si je suis pour qu'on déneige des pistes cyclables l'hiver. J'ai pas le goût de répondre non, là. Tu sais, de même tout seul. Oui, oui.
Mais à quel frais, dans quelles circonstances, au dépend de quoi? Il faut l'information complète.
La question qui manque, ces pistes-là, les utilisez-vous? Ce chiffre-là n'existe pas et c'est la clé.
Oui, parce qu'à 52 %, tu disais un peu, la moitié de la population de Québec font du vélo sur les pistes cyclables l'hiver, là.
C'est impossible. Non. Donc, je pense que les gens sont pour la bonne volonté et les bonnes choses en général. Ça, c'est une question qui est facile, je trouve, de répondre oui. Mais il faudrait pousser le raisonnement plus loin. Puis moi, je trouve qu'il manque des questions dans le sondage. Et une des questions clés, c'est est-ce que vous utilisez les pistes cyclables l'hiver?
On est rendu à combien de kilomètres de pistes cyclables déneigées l'hiver?
Combien?
Moi, j'aurais dit une cinquantaine.
Ouais, c'est plus que ça, hein?
T'aurais dit quoi?
Mais je serais même pas allé à 50.
Tu serais pas allé à 50?
J'aurais dit probablement de 25 et 30, là,
OK.
En n'ayant aucune connaissance, là.
136 kilomètres.
C'est beaucoup.
Pour la présente saison.
Est-ce qu'on a des chiffres sur l'utilisation?
Ben, c'est des chiffres qui sont biaisés, là. C'est vraiment des chiffres qui sont biaisés. Puis, ayons des yeux, là, regardons sur les pistes cyclables là, dans les derniers jours. Puis même au mois de décembre, où c'était quand même doux là, à un certain moment au mois de décembre, je passe régulièrement sur Pierre-Bertrand, qui est un artère qui est vraiment beaucoup achalandé. Il y a une belle piste cyclable qui est au centre.
Dans le milieu, oui.
J'aime ça aller marcher là, moi. Puis l'hiver, il y a 2-3 bessiques à pédale par jour.
Tu sais, je comprends qu'on veut changer des habitudes, puis je comprends qu'on veut aller plus vite peut-être que le vent coureur général, mais est-ce que vous avez vu autour de vous autres des changements radicaux d'habitudes? Tu sais, quand on dit qu'il y a un certain nombre de voitures qui n'existent plus dans la circulation l'hiver parce qu'on déneige les pistes cyclables, le sentez-vous? Le voyez-vous? Tu sais, c'est beau d'avancer des chiffres, puis moi, ces chiffres-là, bien honnêtement, je les ai pas vus. Ça m'intrigue énormément. Et si on réussit à faire en sorte que quelques-uns empruntent les voies cyclables, bravo! Mais moi, j'ai l'impression que souvent, c'est le même public. Le public qui prend le RTC, le public qui marche, le public qui se tient en forme, puis c'est parfait! Mais est-ce qu'on va vraiment sortir des gens de leur voiture et sortir des gens du trafic pour les asseoir sur un vélo à moins 25 l'hiver? Je pense pas.
Pour les citoyens de Val-Bélair, là, ce qu'on voit sur les pistes cyclables, bien honnêtement, c'est pas un préjugé, là, c'est ce que je vois, des quatre roues, des skidous, puis des gens comme moi qui vont promener le chien.
Ouais. C'est ça qu'on devrait faire. C'est plus d'orienter vers le skidoo l'hiver, de prendre ces pistes-là pour les motoneiges. Le monde va avoir du fun à aller à job avec le gros soute qui sente l'essence.
Toi, ça paraît que tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, écoute, je veux dire, je travaille à Cajosport, le monde arrivait en skidoo,
oui,
je capotais.
J'allais,
oui, mais ils sont pas moins chauds pour autant. Là. C'est aussi dangereux.
Je suis allé à Plessisville pour un tournoi de hockey en fin de semaine. Puis je suis allé faire un petit détour à la microbrasserie Jackalope. C'est Moses de belle place. Oh. J'étais le seul char. C'était plein en dedans. J'étais le seul char.
En passant, ils font des contrôles là, avec tout, le bravage maintenant. Là.
Toutes des skidous. Toutes des skidous. Je suis rentré là.
Tu te fais couper par des skidous sur la route.
Ben oui, ben écoute.
Là, hey, c'est le free for all.
La vie, c'est skidou. Là, à Val-Bélair, là, vous le savez. Là.
Donne-y du choke. OK, bye.
Allez au Lady Marianne en skidou.
Oui.
Ça serait malade.
Ben.
Ouais, t'étais gelé, tu t'es réchauffé.
T'as réchauffé. OK, courte pause. Merci, Denis.
Hey, merci à vous autres.
Après la pause, on a le plaisir de jaser avec Frédéric Bérard, qu'on entendait dans le temps, en fait, l'année passée, sur les ondes de Boulevard 101, qui est un docteur en droit, avocat et auteur. Lui s'est posé la question, est-ce que Trump pourrait annexer le Canada facilement, ou est-ce que...
En termes de droit, là?
Exact.
Est-ce que c'est possible, ça, de l'égalité de la chose?
Son papier est disponible sur Nouveau, mais on va en faire un résumé tout de suite après la pause. Merci d'être là. S'il y a quoi que ce soit, les amis, 88-971-1021, 88-971-1021, on revient.
Rage Against le Midi avec Marceau et Pascal CV.
Midi 33, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021 à Québec actuellement. Est-ce qu'il a cessé de neiger? Oui, ça a c'est terminé. Ça dépend où vous êtes, bien entendu. On nous dit que vers les entours de la fin de la journée, toute la neige devrait cesser de tomber sur la grande région de Québec. Maximum de moins 7 pour aujourd'hui. Ce soir, ciel dégagé, un minimum de moins 22. Pour ce qui est de demain, mercredi, une belle journée ensoleillée avec un maximum de moins 12. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Frédéric Bérard dans les derniers mois, les dernières années, mais c'est quelqu'un que j'aime bien regarder travailler sur les réseaux sociaux. Il écrit une fois de temps en temps aussi. Il chronique une fois de temps en temps, mais il écrit une fois de temps en temps sur le site de Nouveau.info.
C'était mon collaborateur régulier. Là.
Exact.
Peut-être que ça va vous replacer là, à leur CV, il venait une fois par semaine.
Et depuis des semaines et des semaines, bon, on entend parler le géant orange de l'autre côté qui veut annexer le Canada. Ben, Frédéric Bérard, qui est docteur en droit, avocat et auteur, fait un papier franchement intéressant où il fait un détour par le statut de Rome, lequel donna naissance à la Cour pénale internationale. J'avais hâte d'y jaser. Salut Frédéric.
Salut Yannick.
Merci d'être avec nous. C'est un gros travail que tu as fait à savoir si c'était possible pour Donald Trump d'annexer le Canada aux États-Unis.
Oui, il me donne la job pas mal, Donald, là, depuis un bout de temps. comme plusieurs autres, là, tu me diras. Mais oui, j'étais curieux de savoir c'est quoi l'état du droit précis. Hein, parce que des questions d'annexion comme ça, c'est pas comme si on en entendait parler si souvent que ça, là, heureusement d'ailleurs. Puis je me suis posé aussi la question, les menaces économiques hein, d'imposition de tarifs et autres, est-ce que ça pourrait être considéré comme étant un crime d'agression selon le statut de Rome? Puis j'arrive à la conclusion que oui, c'est possible. En fait, si évidemment tu laisses entendre qu'il peut y avoir une annexion par la suite.
Ouais. Est-ce que c'est le but escompté? Moi, j'ai l'impression que c'était pour gonfler son ego, là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Puis on a vu ce qui s'est passé hier. Il a reculé pour ce qui est du Mexique, il a reculé pour ce qui est du Canada. Puis il a obtenu de l'aide supplémentaire pour surveiller les frontières tant au Mexique qu'au Canada. Est-ce que l'ONU et l'OTAN, dans le cas où Donald Trump là, voulait annexer le Canada, est-ce que l'ONU et l'OTAN auraient leur mot à dire?
Ben, c'est deux belles questions sur lesquelles je me suis penché. L'OTAN, c'est particulier, hein, parce qu'on sait que il y a un mécanisme prévu que si un des pays de l'OTAN, dont fait partie évidemment le Canada et les États-Unis, si un de ces pays-là est attaqué, ben les autres pays viennent à sa rescousse. Sauf que c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un pays de l'OTAN attaque l'OTAN. Donc, on se posera la question, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que peut-être que le droit techniquement pourrait s'appliquer, mais compte tenu de la zone grise, j'ai plus l'impression qu'il y a un paquet de pays qui vont dire « bah, si tu, on va plaider justement cette zone grise-là pour essayer de se trouver des excuses et de ne pas aller défendre le Canada contre les États-Unis ». Sur la question de l'ONU, ça c'est encore un petit peu, la réponse est plus simple. Si tu te souviens, Pascal aussi, la guerre du Golfe, hein, quand l'Irak était débarqué au Koweït, une invasion, là, claire et nette. Or, l'ONU a dit aux pays membres de l'ONU, évidemment, on y va militairement et ils ont le droit de faire ça en vertu des articles 42 et 43 de la Charte de l'ONU. Donc, ils sont arrivés au Koweït, ont cassé la gueule à l'Irak. L'Irak est parti, merci, bonsoir. Le problème, quand on parle de l'ONU, c'est toujours le sacré Conseil de sécurité. Hein? Il y a des membres permanents, 5 sur ce conseil-là, et ces membres-là ont chacun un veto sur chaque décision de l'ONU. dans la décision de ce type-là, là, c'est-à-dire d'intervenir militairement. Or, qui est sur le Conseil de sécurité de l'ONU? Évidemment, les États-Unis. Les États-Unis vont sacrer leur veto là-dessus, puis basta. C'est d'ailleurs la même chose que fait la Russie de Poutine par rapport à l'Ukraine pour empêcher toute forme d'intervention.
Dans ton papier sur Nouveau, Frédéric Bérard, tu mentionnes la déclaration d'Helsinki où, je pense que c'est en 1975, ça a été signé à la fois par le Canada et les États-Unis. Et on sanctifie le respect des droits inhérents à la souveraineté, l'inviolabilité des frontières, je l'ai eu, et l'interdiction de recourir à des menaces. Bon, jusqu'à maintenant, Donald Trump a fait quelques menaces. Comme tu me mentionnes, bon, les menaces pourraient être perçues comme étant... pas criminel, mais quel mot qu'on peut...
Une infraction au droit international.
Une infraction. Mais lui, est-ce qu'il voit ça comme ça? Est-ce que tu as l'impression qu'il a poussé sa pensée là, à savoir si il rentrait en conflit avec la déclaration d'Helsinki? Je pense pas.
Hey, c'est vraiment une belle question. Évidemment, je suis pas dans la tête de Donald. Là. Si jamais tu connais quelqu'un qui l'est, tu me l'enverras. Ça pourrait m'être pratique. Mais... plutôt l'impression, tu auras compris que le papier que j'ai fait pour Nouveau, c'est un papier qui est un peu théorique à quelque part, hein, dans l'optique où, tu sais, bon, le droit international, moi, je suis pas un internationaliste, je suis constitutionnaliste, tu sais, je pense que, bon, c'est mieux que rien dans bien des cas, mais j'y crois pas plus que ça. Fait que si moi, j'y crois pas plus que ça, imagine à quel point Donald, il s'en tape, mais complètement, tu sais, la déclaration des Inquis, est-ce qu'il est au courant de ça? Franchement, j'en doute.
Ah, il pourrait tout déchirer de toute manière s'il voulait. Là, ce serait beaucoup plus physique que applicable, mais quand même. Là.
Ben, en fait, la déclaration est déjà signée comme telle. Fait que c'est pas quelque chose qui se déchire. Puis comme je l'expliquais un petit peu dans l'article, la déclaration comme telle, c'est plus un symbole. Tu t'engages, Yannick, tu l'as bien expliqué, là, tu t'engages à respecter l'intégrité territoriale des États signataires, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que t'annexes personne, tu sais, essentiellement, là, that's it. Alors, rendu là, c'est bien beau avoir quelque chose qui est clair, là, comme tu viens de le dire, mais s'il n'y a pas de temps rattaché à ça, là, si tu violes la déclaration des Inquis, il n'y a pas de police. C'est ça qui est le problème aussi souvent avec le droit international. De façon générale, c'est que ça manque nécessairement de mordant.
Frédéric, là, je vois que le temps avance. On a-t-il encore quelques minutes avec toi?
Oui.
OK. Il y a quelque chose qui me fascine, moi, c'est tout ce qui est pénalité par rapport à un président ou un leader de pays, peu importe comment on l'amène, puis le terme qui est utilisé dans leur pays, mais... Tu sais, on parle du droit international, il y a une cour internationale aussi, mais si la dite personne reste dans son pays, elle ne pourra pas être arrêtée, c'est si elle sort, etc., etc. En ce qui concerne un genre d'invasion politique comme Donald Trump tenterait de le faire, est-ce que nous, il y a une manière de résister côté droit qui est claire, nette et précise, puis là, je ne te parle pas territorial, parce qu'il ferait bien ce qu'il voudrait, mais au niveau du droit? Y a-t-il quelque chose qui est applicable et qui est reconnaissable? On a-t-il assez d'alliés aussi pour l'appliquer, si jamais?
Je comprends pas ce que tu veux dire par rapport au territoire.
Ben parce qu'il pourrait bien traverser les frontières s'il veut, là, avec son armée.
Non, mais c'est ça le papier en question. C'est de ça dont je parle.
Oui, je le sais. Sauf que, mettons que lui décide de... Nous, on peut arrêter ou autre, là, mais je veux dire, il pourrait prendre cette décision-là de toute manière. Il y aurait des répercussions. Mais au niveau du droit, en termes de politique même, ce serait quoi les conséquences?
C'est ça que je veux dire. Ma chronique porte justement là-dessus. C'est-à-dire le droit qui s'applique s'il y a une invasion militaire. Et donc, en gros, le statut de Rome te dit, ben, si tu débarques chez quelqu'un, si tu l'annexes, si tu l'envahis, c'est une contravention au statut de Rome. Là, ce qu'on aurait pu ajouter là-dessus, c'est que le statut de Rome n'est pas signé par les États-Unis. Pourquoi? Parce que le statut de Rome donne naissance à la Cour pénale internationale. Ce qui veut donc dire que tu peux pas sanctionner un État qui n'est pas signataire du statut de Rome. Fait que ça, pour là-dessus, on est foutu.
On est foutu. Mais je te pose la question autrement, OK? Parce qu'elle vient d'un auditeur, puis je pense que je comprends qu'il y a du monde qui ne le saisisse pas de la même manière, là.
Mm-hmm.
Mais officiellement... Il n'y a pas, malgré la Cour internationale, il n'y a personne qui est Dieu tout-puissant en avant de personne dans le monde actuellement. C'est juste la force politique, la force économique. Si vous du côté philosophique, il n'y a personne qui est prédominant sur personne.
C'est peut-être moi qui est niaiseux, mais je comprends pas là, ce que tu veux dire.
Yannick, tu ne me suis pas non plus.
Pas non plus.
Selon les alliances qu'on a créées dans le monde, là, entre pays, Fred, là.
Ouais.
Oui.
OK.
Ben, là, c'est parce que, ben, il y a deux choses. Moi, le papier que j'ai fait un papier sur le droit international qui s'applique en cas d'invasion. Et exact. Là, j'ai expliqué que, bon, ça, par exemple, Yannick l'a bien résumé. OK, l'OTAN, c'est une possibilité. Statut mm-hmm. de Rome, non, parce que les États-Unis sont pas signataires. Helsinki, oui, mais ça reste symbolique. Et l'ONU, la charte de l'ONU, 42-43, ça va être difficile, pour pas dire impossible, parce que les États-Unis ont un droit de veto. Fait que bref, en d'autres termes, puis je finis mon papier comme ça en disant, on est dans le trouble, en vertu du droit international. Fait que si on, maintenant, on peut mettre ça de côté. Ton autre question, c'est si le droit international ne s'applique pas, qu'est-ce qui peut s'appliquer? Ben là, ça s'appelle les gros bras. Et qui a les gros bras? Ben nécessairement Donald, la Russie, la Chine,
voilà.
L'Inde de plus en plus.
Puis au-dessus d'eux, que... s'ils prennent ces décisions-là, il n'y a rien qui peut les arrêter officiellement.
Non, parce que le droit international est impotent. Puis comme je l'expliquais, il n'y a pas vraiment dedans. Tu sais, en droit interne, mettons québécois ou canadien, ou droit interne américain en temps normal, ben si tu fais telle affaire, ben il va avoir, tu violes telle norme, ben il va avoir telle sanction par la suite. Par exemple, tu vas aller en prison. Si tu violes le droit international puis tu te fais taper ses doigts par la Cour internationale de justice, regarde, c'est le cas de Netanyahou là actuellement, c'est le cas de Poutine aussi, c'est le cas de Bolsonaro au Brésil. Ben ces gens-là, ok, ils ont su une décision, puis entre toi puis moi puis la boîte à bois. Ils s'en tapent, mais totalement. Pourquoi? Parce que la Cour internationale n'est pas capable d'aller chercher ces gens-là, c'est par ça. Exemple Netanyahou en Israël, puis ça a créé en prison. Fait que c'est ça que j'essayais de dire. C'est
oui.
toujours une limite au droit international, au final. C'est mieux que rien. C'est un symbole qui peut être intéressant, mais c'est pas comme du droit interne où là, il y a une police qui va aller te ramasser puis te sacrer en prison.
Exact. Il y a personne au-dessus de tout ça qui va pouvoir faire, en fait, l'ordre et la loi. Là. Ouais. Et après, tout est dépassé.
Frédéric Bérard, on va se le dire, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Là. Il est pas en place depuis plus d'un mois. Là. Ça fait même pas un mois qu'il est là, puis il fait jaser, il fait réagir. On va avoir un 4 ans incroyable. On va s'en souvenir jusqu'à la fin de nos jours de ce 4 ans-là.
Ben moi, je vais te dire autre chose. Si ça reste, si on limite ça à 4 ans, c'est pas pire.
Oh! Ça pourrait aller au-delà de ça?
Tu peux you can quote me on that.
Attends,
écoute, c'est déjà commencé. Moi, Trump, je le trosse pas pantoute. Puis quand tu regardes dans le projet 2025, c'est clair. C'est une attaque frontale aux institutions, à l'État de droit, à la ouais. démocratie. C'est un nouvel ordre. Et là, on va voir si les contrepoids aux États-Unis sont assez solides pour faire face à une menace qui est celle de Trump. Et ça, je te dirais que si j'avais à gager l'argent de l'épicerie, là, c'est pas clair que je la gagerais contre Donald.
Mais Musk va vouloir sa place à un moment ou à un autre. Quand il est arrivé sur scène, on dirait que c'était lui qui venait de se faire élire.
Ouais.
Il
va vouloir ça, c'est...
cette place-là.
Ça, Fred...
En fait, il est passé à la caisse comme jamais. Et d'ailleurs, j'ai su... que Donald lui aurait donné accès au coffre. Je ne sais pas à quel point tout ça, c'est vrai. Habituellement, tu sais, c'est des fonctionnaires, là, ouais. des gardiens du Trésor national. Hein, apparemment, qu'il y aurait une twist qui permettrait à Musk. En d'autres termes, toutes les institutions, Yannick, vont être confrontées. Là. J'ai vu tout à l'heure ce matin qu'il était sur le point d'abroger le ministère de l'Éducation. Alors, c'est ça. Fait que, bref, voyons voir où ce que tout ça mène, là, mais je suis pas d'un optimisme délirant maintenant.
Mais ça va être divertissant, mais tu sais, moi je l'ai dit, je pense qu'on en a jasé il y a deux semaines, moi et Pascal, mais de voir l'homme le plus puissant de la planète être main dans la main avec l'homme le plus riche de la planète, ça risque de mal se finir. Puis j'ai juste hâte de voir si ça va être positif ou négatif ce qui va se passer entre ces deux gars-là. C'est incroyable de voir ça.
Tu sais qu'Einstein disait « Arrivera un temps où les plus riches de cette terre détiendront tous les médias d'information où il sera impossible pour le citoyen de s'informer correctement. » Peut-être qu'on est rendu là.
On est là. Merci, Frédéric.
Merci.
Hey, merci à vous deux.
Bye-bye. L'excellent Frédéric Bérard, qui est docteur en droit, avocat et auteur. Il a fait une recherche à savoir si Trump pouvait annexer le Canada et s'il pourrait l'avoir. Puis effectivement, dans sa recherche qui est théorique, là,
ouais.
si Donald Trump voulait le faire, il pourrait le faire, puis il n'y a rien qui pourrait l'empêcher.
Je trouve ça tellement intéressant parce que là, on s'entend, là, il n'est pas en train de dire c'est ça qui va arriver, c'est ça qu'il va faire, mais est-ce que c'est possible? La question est intéressante. Là, j'ai réussi à vous mêler, puis c'est rare que je réussisse à mêler Frédéric.
Moi, ça m'arrive souvent. Là. J'étais content que quelqu'un vive d'autres choses.
Non, mais c'est rare en plus avec Frédéric, parce que sans connaître la réponse, je la connaissais la réponse, puis on me l'a posée quand Frédéric parlait. Mais tu sais, pense-y, là, puis on se demande tout le temps, c'est quoi les meilleures valeurs dans le monde, là? C'est-tu les nôtres? C'est-tu celles des Chinois? C'est sûr que nous, avec nos yeux d'occidentaux, là, on considère qu'on a la meilleure façon de voir les choses, que ça devrait être applicable partout sur la planète, que les droits humains que nous, on défend, ça devrait être pareil partout.
Ouais.
Mais on est né ici. Fait qu'on a cette vision biaisée-là. En même temps, tu me demandes qu'est-ce que je préfère comme régime. C'est sûr que c'est le nôtre. Le hic étant, officiellement, si c'est pas de nos alliances, OK, politique, territoriale, ou dans le droit, ou dans la façon de voir les choses, on n'est rien. Puis même si on aurait la vertu, puis si on avait la vertu, là, on la connaissait, puis ce serait nos droits qui sont les meilleurs que les autres, il n'y aurait aucune façon de l'appliquer. Ce n'est que par la force et tout ce qui a été mandaté en termes de contrats, de signatures, de façon de voir les choses après la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, là, ça a été un rassemblement de pays qui se sont dit « on a sensiblement la même façon de voir les choses, fait qu'on va se diriger sur la même ligne, puis si quelqu'un voit autrement, on va punir par la force ».
Moi, je suis persuadé que dans 10 ans, Pascal, sans nécessairement passer par une annexion, là, il va y avoir une entente entre le Mexique, les États-Unis, le Canada, principalement entre les États-Unis puis le Canada, où on n'aura plus de frontières entre le Canada et les États-Unis. Ça va être une seule et même frontière qui va nous protéger d'un océan à l'autre, par le nord et par le sud. Est-ce que la limite, ça va être le Mexique? Ça reste à déterminer. Mais je suis persuadé que d'ici 10 ans, ça va être ça.
Ça va être notre façon de se défendre contre les autres alliances qui sont en train de se créer en géopolitique.
Parce qu'il va falloir le protéger, le nord. Et visiblement, le Canada n'est pas capable de le faire. Ce que les États-Unis seraient capables de faire. Mais là, ça passe par des concessions.
Mm-hmm.
Si on dit, OK, on enlève la frontière entre les États-Unis et le Canada, on reste le Canada, on reste les États-Unis. Un peu comme l'Union européenne, mais complètement différent, bien entendu. On continue notre libre-échange et tout ça. On essaie de compliquer le moins possible la circulation entre le Canada et les États-Unis. Moi, je vote pour ça, là. Parce que if you can't beat them, join them.
Ouais, c'est parce que ça, il va, comme tu dis, les concessions seront très importantes.
Ouais.
Parce qu'on voit beaucoup les États-Unis comme exceptionnels, parce qu'on y voyage, parce qu'il y a des choses qu'on apprécie, parce que tout ce qui est le rêve américain s'est empris de nous à certains moments. On en arrache un peu des fois côté entrepreneurial, mais tout ce qui est personnel, par contre, est beaucoup plus riche, là, puis je ne parle pas en termes d'argent, qu'aux États-Unis.
Mais tu conserves tes acquis. Tu demeures le Canada, tu demeures les États-Unis. C'est juste qu'on n'a plus de frontières là, où il y a des gardes frontaliers qui sont là entre nous deux.
Nos défenses et nos armées vont globalement se fusionneraient, mais ça amène tellement de problématiques aussi. Tu sais, 88-971-1021, il y a sûrement des militaires qui nous écoutent. Des gens, tu te mets à jaser avec eux, il y a des possibilités, mais pas à n'importe quel prix.
On aura l'occasion d'en reparler. 12h50, vous avez des choses à nous dire. 88-971-101. Après la pause, l'excellent Pat Raymond qui va être là pour sa chronique financièrement. Pat Raymond, c'est le gars du podcast Financièrement parlant. Donc, on va parler d'actualité économique et de notre portefeuille d'investissement qui doit en manger un coup dans les dernières heures. On en parle. Marceau.com. Ah, là, les gars, vous allez m'aimer parce que je vous parle de la Saint-Valentin. Là, tu dis, Yann, la Saint-Valentin, nous autres, on haït ça. Ben oui, t'es comme moi, t'as haï la Saint-Valentin, sauf que faut que t'agâtes. Faut que t'agâtes, parce que sinon on va se comparer là, sur Instagram, sur Facebook, avec ses amis. Puis, j'en ai-tu plus, j'en ai-tu moins? Ça a-tu été un plus bel événement que ma voisine? Les filles sont là. Mais là, j'ai une idée pour toi. Hein, Pascal veut ouvrir son micro. Oui, c'est à vous.
Là, tu parles pour les femmes?
Oui.
Oui, on va se comparer.
Les femmes vont se comparer. Fait que faut que tu la gâtes, OK? Puis moi, j'aime ça quand tu gâtes les femmes. Mais j'aime ça aussi quand tu sauves de l'argent. Jusqu'au 17 février, on est quoi? On est le 4, là. Donc, il te reste encore une couple de jours. La Saint-Valentin, en passant, c'est le 14, OK? Je vais te le rappeler cette journée-là parce que je fais quelque chose de spécial pour Pascal, parce que je suis tanné qu'elle soit célibataire. Fait que tu vas savoir que c'est la Saint-Valentin, mais tu vas avoir quelques jours de plus. Donc, jusqu'au 17 février, j'ai 25% de rabais sur les produits sélectionnés de marque Womanizer, WeVibe et Pure, comme par exemple le dernier Womanizer Next où on triple le nombre de pressions pulsées. Le WeVibe Chorus de produit, c'est un produit pour couple, bien entendu. Ça, c'est le plus vendu. Tu peux y aller à distance avec l'application Bluetooth. C'est franchement intéressant. Et le gel intensifiant Pure pour les parties externes féminines qui rehaussent la sensation. Donc, c'est les produits qui sont à 25%. De plus, avec tout achat dans nos boutiques et en ligne sur les factures de 50$ et plus, ben, on vous donne un cadeau cadeau gratuit de 50$. Sur les factures de 100$ et plus, ben, on vous donne un cadeau gratuit d'une valeur de 100$. Donc, viens faire un tour aux boutiques au 7e ciel. C'est jusqu'au 17 février. Fait que si tu as prévu de faire la Saint-Valentin la fin de semaine, on est là pour vous autres. On pense tout le temps à toi. Et si tu passes par le magasin, ben, tu cours la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 1000$. Donc, vous êtes gâtés avec les boutiques au 7e ciel pour la Saint-Valentin. C'est ouvert 7 jours sur 7, 911 Charest-Ouest, marché Jean-Talon de Charlebourg. Et si ce soir, tu désires être coquin sans nécessairement te pointer dans le commerce, ben c'est au7e ciel.com, au7e ciel.com.
À la CCAP Moto, le salon de la moto de Québec.
Je vous parle du Tonic Gym, pourquoi? Parce que je tiens à votre santé. Ça fait des semaines et des semaines, ou peut-être des mois, que tu remets ton début à la salle d'entraînement plus tard. Ben, je t'invite à y aller là. Ça se passe à Québec, le Tonic Gym. C'est une expérience hors du commun dans la plus grande salle d'entraînement à Québec. Tonic Gym, c'est des appareils qui sont neufs. Tu as besoin d'un appareil en particulier, ben, on en a à peu près 10 en exemplaire, donc tu n'as pas nécessairement d'attente. On a une immense section cardio aussi. Si tu désires faire du cardio l'hiver, c'est pas toujours évident de courir quand il fait moins 20, moins 25. Donc, des machines pour faire du cardio, on en a, puis pas à peu près. Plusieurs sections d'appareils musculaires aussi. Zone exclusive pour le bas du corps. On a une boutique, un bar santé aussi pour aller prendre un petit drink avant ou après. Et on a du coaching privé au Tonic Gym. Tu veux en savoir plus? Pointe-toi dans les anciens locaux du Palladium à Québec ou encore au tonicgym.ca. On risque de s'y croiser.
Pour la Poutine Week, le midi.
Dans les prochaines minutes, si vous êtes un motocycliste, ça vous tente d'aller faire un tour à l'Expo Moto, ben on est de retour au centre de foire du 7 au 9 février. Donc, ça commence dans quelques jours, les amis. Puis, je vais avoir une paire de billets pour vous autres. Donc, juste restez à l'écoute de la prochaine chronique. Puis, soyez attentifs. La question que je vais vous poser, ça aura peut-être un lien avec Pat Raymond, qui est notre chroniqueur financier du podcast Financièrement parlant. Salut, mon ami!
Allô!
Très content de te voir. Ça va bien, ça va bien. Ouais. Faut que je monte le son. Je sais pas si c'est parce que je suis plus sourd.
Non,
ou je
l'entendais pas aussi.
Tu l'entendais pas?
Non.
Bon. Ben voilà, c'est fait.
Je suis là, là.
Oui.
T'es là.
Oui.
T'es
dans
là.
Vos oreilles.
Dans vos oreilles. T'as-tu joué à la bourse dans les dernières heures, les derniers jours? Parce que là, ben, ça a été payant.
Ben, je m'amuse là-dedans un petit peu. Mais tu sais, il faut toujours être prudent quand on le partage en onde pour pas influencer les gens. Là, évidemment, j'ai jamais recommandé un titre boursier en particulier.
Tu te ferais taper ses doigts.
Mais personnellement, ouais, mais c'est ça, on n'a pas le droit. Puis avant ça, j'étais conseiller. Maintenant, je ne le suis plus, mais j'ai pas plus le droit. De toute façon, même comme conseiller, on pouvait pas en parler. Mais entre nous, des fois, on dit « Hey, t'sais, as-tu vu tel titre? Hein? » Tu sais, des fois, tu as eu un moins 15, moins 20, moins 25. Puis tu dis « J'embarque-tu dedans pour le fun, juste pour l'essayer? » Puis là, soudainement, tu es surpris le lendemain. Parce que là, il a fait « Ah, wow! » Il a fait tant. Et là, tu dis « Qu'est-ce que je fais? Je vends-tu? » J'ai mis 5 000, j'ai mis 10 000, j'ai mis 1 000, j'ai mis... Puis là, je viens de faire quelques centaines de dollars comme ça en valeur. Qu'est-ce que je fais? Je vends, je prends mon profit. Merci, bonsoir, j'étais chanceux. Ou je le laisse dormir un peu, je le laisse flotter avec des possibilités d'en faire plus. Là, c'est là où des fois on compare la bourse, Yann, avec le casino. Tu sais, quand on est à court terme, dans la même journée ou
Moi, je vois pas ça comme le casino. Là, je suis pas assez riche, mais je comprends ce que toi, tu veux dire.
Non, mais il y a du risque.
J'en parlais avec Pascal ce matin. T'sais, moi, j'ai lu un des livres de Tony Robbins. Il y en a à peu près 75. Là, mais dans un, il mentionne que vous devez trouver un moyen de faire de l'argent en faisant rien ou de faire de l'argent en dormant. Puis depuis ce temps-là, moi, je joue à la bourse, mais je joue d'une façon extrêmement prudente. J'ai quelqu'un qui s'occupe de mes avoirs pour justement faire fructifier mes trucs que je mets de côté, mais moi, je joue à la bourse avec à peu près 10% de ce que je place. J'ai lu un autre livre de Warren Buffett que je trouve franchement intéressant. On en a parlé, toi et moi.
Oui.
Lui disait, profitez de ce qui se passe dans l'actualité pour voir les coups qui s'en viennent d'avance. Je le savais qu'avec la décision de Trump, tout le monde était en alerte, là, tant aux États-Unis qu'au Canada. Ben, il allait avoir un petit glitch. Ça allait descendre un peu vers le bas parce qu'il y avait de l'incertitude. Ben, hier, j'étais allé sur mon Disnat, j'ai placé mes tomates, puis mes tomates ont poussé, puis aujourd'hui, ben, j'ai récolté ce que j'ai planté hier,
aujourd'hui.
C'est un risque, oui et non, parce que si tu appliques la fameuse technique de Warren Buffett, c'est-à-dire tu magasines quand c'est à rabais, quand tu vas chez Jean Coutu, là, papier de toilette, tu prends le moins cher.
Oui.
Ben, tu vas tout le temps arriver dans ton argent. Ça va-tu être 5, 10, 2, on ne sait pas. Mais dans ce cas-ci, moi, j'ai misé sur Apple hier. Puis, ça a bien été, en une journée, j'ai fait beaucoup d'argent.
Mais là, tu parles d'une compagnie qui a une grande capitalisation boursière,
ouais,
la plus grande, si on veut. C'est pas comme une autre compagnie XYZ où là, tu te dis, hey, ça a perdu de temps. Ou t'es dans un penny stock, puis ah ouais, j'embarque, puis je swing un 20 000 là-dedans. Puis le lendemain, il était 10 000. Puis là, t'en as pour 4 ans à entendre que ton 10 000 flotte. Là,
non,
puis
non.
Que tu vas... Fait que c'est. Il y a beaucoup de.
Warren Buffett dit magasiner quand c'est en rabais.
C'est absolument, ce qu'il parce qu'il y a beaucoup de fondamentales, ça, je voulais dire. C'est que c'est certain que là, tu es allé vers une compagnie. Le pire scénario, par exemple, si Apple n'avait pas remonté ou peu importe, bon, on ne recommande pas de. Peu importe le titre.
J'aurais attendu.
Ben, à la limite, c'est une question de temps.
Ouais.
Mais toi, tu es en train de dire que le montant que tu as mis, par exemple, dans Apple, ben, tu étais prêt à attendre.
Exact.
Puis quand même que ça prendra un an, je pense pas qu'Apple va faire faillite d'ici 5 ans. Donc, c'est ça le risque. Tu le laisses quand même vivre là-dedans, puis à un moment donné, il va grandir, puis il va... Puis c'est correct. Fait que c'est ça, tu as des sites boursiers des fois de qualité, tu as des sites boursiers de mauvaise qualité. Te palantir aujourd'hui, tu vois qu'il a fait 25, 26 %. Je sais pas 26%. Combien c'est rendu là, juste aujourd'hui. Là. ça veut dire que... Non, mais des fois, c'est plate. Ça fait mal quand on le dit, mais si j'avais mis 10 000 là-dedans hier, ben, serais-tu à 12 600? Ça ne veut pas dire dans quel timing tu serais arrivé, mais oui, tu aurais peut-être fait 2 000 dans une journée. Mais là, quand tu continues ça dans l'année, ça se peut qu'après ça, le surlendemain, tu vas perdre 3 000. Puis à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui font du day trading dans des séances, là, comme on dit, de à la journée, qui, à la fin de l'année, un dans l'autre... On fait des bons coups, ouais, des mauvais coups, puis ils peuvent pas dire nécessairement que ça a été si payant que ça pour le stress subi puis le niveau de risque.
Moi, j'ai pas une heure assez solide individu pour faire du day trading. J'ai fait la formation avec Gaëtan Royer,
oui,
très bel investissement.
Ben oui.
J'ai adoré, mais c'était juste pour parfaire mes connaissances au niveau de la bourse. Puis ça m'a grandement aidé. Mais
oui,
faire
hein?
ça tous les jours, regarder ce qui monte, ce qui descend.
Ça prend du temps aussi.
C'est à chaque fois, je vois
ça.
Comme,
du temps, c'est de l'argent.
Ah, je peux acheter du linge à mes gars. Ah, non, finalement, je vais être obligé de vendre le linge de mes gars. c'est oublie ça.
SPS sur Marketplace.
C'est quand même beaucoup de stress. Il y a des gens qui sont très cartésiens,
oui,
qui sont capables d'être là-dessus, puis de vraiment faire leur analyse fondamentale, puis des fois, au niveau des graphiques, puis ils suivent leur résistance, puis etc. Puis c'est super, moi, je les félicite.
Parce que c'est excitant, là. T'es-vous aller sur TikTok?
Il y a côté excitant,
là.
Effectivement.
Ouais. T'es-vous aller sur TikTok?
Ouais.
Là, ils te montrent juste leur bon coup, là. Ils sont avec leur ordinateur, puis là, ils programment leur ordinateur. Quand ça va commencer à monter, t'achètes là, puis à partir du moment où ça commence à descendre, tu le vends là.
Oui.
Puis là, pouf, il se fait 300$, mettons,
absolument,
en 2 minutes. Mais là, il met ça sur son TikTok. Combien il a perdu avant, ça, on ne sait pas. Mais son bon coup, là,
ouais,
il te le montre, puis tu te dis, hey, peut-être que ça pourrait être moi, le prochain Elon Musk. Il y en a plusieurs.
Mais il est là, le risque.
Il y en a plusieurs qui se sont essayés, tout le monde s'est cassé la gueule. Mais il faut que tu fasses ça. Faut que tu prennes des cours là-dedans. Faut que tu t'intéresses à ça. Comme
monsieur,
toi, tu
monsieur madame, tout le monde n'a peut-être pas aussi la disponibilité de temps. A pas nécessairement l'argent pour le, comme on dit, le risquer. Dans le fond, l'argent devient ton outil. Fait que si tu joues avec 100 000, c'est un 100 000, il ne faut pas t'aider de besoin.
Hey boy, ouais.
Parce que c'est avec ce 100 000-là. L'argent, c'est un levier. Tu sais, je l'ai dit souvent ici. Tu as raison de mentionner de faire de l'argent en dormant. Et ça, quand on dit ça, des fois, c'est pas pour faire suer personne. Là. Mais c'est comme tu veux évaluer si ta situation financière va bien, c'est combien d'argent tu fais quand tu dors. Que ce soit les rendements sur tes placements, que ce soit, par exemple, des plus-values sur tes immobiliers, ou carrément des revenus de royauté. Il y a des artistes qui reçoivent des royautés, qui reçoivent un per diem, peu importe. Combien d'argent tu reçois lorsque tu n'as pas à déployer de l'énergie physique ou tu n'as pas à vendre ton temps pour un employeur? Ben ça, des fois, il y en a qui disent, ben moi, je fais 1 000 $ par mois, 2 000 $ par mois, 3 000 $ par mois. Puis c'est ce qu'on appelle des revenus résiduels où j'augmente ma valeur à chaque année de quelques milliers de dollars sans travailler. Alors là, c'est très bien. Mais avec ce qu'on fait en travaillant, comment on le maximise? Monsieur, madame, tout le monde, je dirais que c'est un petit peu plus complexe pour la plupart parce qu'on a besoin souvent de tout l'argent qu'on gagne sur nos payes.
Exact. Parle-moi un peu des X, parle-moi un peu de la génération Y, même les baby boomers. Il y a des sondages qui sont sortis dans les derniers jours qui parlent de ces générations-là et de leur relation avec l'argent.
Oui, ben c'est ça, c'est le sondage Angus Reid. J'ai pris dans Finance et Investissement. Ben moi, j'ai peut-être le privilège d'être encore tout bien abonné à toutes sortes d'infolettes ou de trucs de finances. Donc, je suis resté branché, comme on dit, dans la gestion de patrimoine en général, malgré ma retraite depuis 2 ans. Je m'informe constamment. Puis des fois, j'essaie de vous trouver des trucs qui vont des fois peut-être plus faire réagir ou sortir un peu de ce qu'on entend beaucoup dans l'actualité. Puis là, j'ai dit, bon, j'arrive-tu en parlant de Trump et de l'actualité économique? Puis en même temps, on en parle quand même beaucoup. Fait que je me mets toujours dans la peau de monsieur, madame, tout le monde, peu importe la génération dont il fait partie. Puis ce qu'on aime, je dirais, c'est de se comparer. Je sais pas vous autres, mais on aime ça se comparer parce que des fois, on dit « Je suis trop endetté par rapport aux autres » ou « Je suis correct par rapport aux autres? »
C'est souvent assez le rage des gens pour oui, voir leur état financier.
Parce que des fois, ça peut être paniquant. Là. Toi, t'as, mettons, tu as 45 ans, tu as tout le temps vécu à la petite semaine, tu vis bien, tu as une maison, tu as une voiture, tes enfants manquent de rien. Ouais. Là, tout d'un coup, tu en rencontres un. Mettons, tu rencontres un patrimoine là, qui a commencé à investir très jeune puis qui en a en masse de côté puis qui dit « Ouais, tu sais quoi, j'ai à peu près la même âge que toi, je pense que je suis en train de faire ma pré-retraite ou ma retraite, ça peut être paniquant quand tu commences à regarder les autres. Là.
Ben oui, absolument. Puis des fois, on se compare, on se console, mais on se compare. Puis c'est très relatif parce que, tu sais, je vous l'ai déjà dit ici, 1 million d'accumulés, ben c'est 40 000 par année de revenus passifs. Si on veut garder ça à long terme, il te reste 40 ans à vivre, tu peux pas le flamber. Fait que ça prend-tu, combien ça prend pour arriver à vivre très bien puis prendre une retraite de bonheur? Ça prend beaucoup quand même. Là.
Tu parles de ce million-là comme si c'était un lundi.
Oui, tu parles comme si tout le monde avait ça puis ne pouvait pas flamber.
Moi, non, mais les gens visent le fameux million, mais si tu restes 40 ans à vivre, là, je parle pas d'avoir 1 million quand tu es rendu à 70 puis 80, mais quand tu as 40 puis 45 ans puis tu veux prendre ta retraite, tu dis « moi, je vais atteindre 1 million puis je prends ma retraite ». Ben 1 million, c'est 40 000 par année si tu ne veux pas épuiser
imposant.
Ton capital.
Ouais.
Là, ça dépend, il provient de quel genre de placement, puis c'est très relatif. Ça se peut qu'il y en a qui vont déchanter parce que tu as bien beau avoir des valeurs, puis d'avoir de l'immobilier ou d'avoir, tu peux t'accoter. Puis moi, ce que j'aime bien dire des fois, c'est que tu peux, en ayant des valeurs, tu peux t'accoter là-dessus pour aller emprunter. Et bien certainement que des fois, Yann et Pascal, juste entre moi puis vous autres, j'aime bien mieux payer du 7 % d'intérêt que de payer du 53 % d'impôts.
Très bon point.
Ça, là, il y a des choses là-dedans à comprendre qu'à un moment donné, d'emprunter l'argent pour rouler, et même pour alimenter un style de vie, de l'emprunter au lieu de la générer, payer de l'impôt, payer de l'intérêt. Des fois, le choix il est là. Puis les gens d'immobilier le savent. Puis il y a Robert Kiyosaki qui en parle allègrement. Parce qu'ils vont dire, ben moi, je ne suis pas imposé, je ne paye pas d'impôts.
Père riche, père pauvre, lui.
Ben oui, ouais. Je fonctionne simplement avec de l'endettement. Je ne suis pas en train de dire que moi, je fais ça.
C'est tout un livre, soit dit en passant.
Ah, c'est un de mes préférés, moi, de la décennie.
Ben, c'est un livre qui fait réfléchir parce que le papa, le père riche, père pauvre, ben, le père pauvre, ce n'est pas un père pauvre comme on l'entend, comme on le voit dans notre tête. C'est un père diplômé, éduqué, beaucoup, beaucoup de contenu. C'était quelqu'un de très, très instruit. Et c'est toujours une question de mentalité. Mais il faut retenir que, puis tu vois, si on se permet de passer à travers quelques questions du sondage, c'est quelle tranche d'âge qui était la plus affectée par les difficultés financières? Bien, la réponse, là, c'est la génération Y. Là,
oh, moi, j'aurais dit génération X.
Bien, non, ici, c'est Y, les 29-44 ans. Puis cette génération-là est aussi celle qui a connu la plus grande hausse de prix de l'immobilier. Il y en a qui vont être contents, là. Ouais. Oh, les boomers! En passant, moi, j'ai juste 55 ans. Je ne suis pas un boomer. Je suis un X, comme toi, mon cher Yann. En 1980, une maison là, coûtait combien de fois le revenu annuel? Puis je vais le comparer avec aujourd'hui.
1980. Une maison pouvait coûter... bon, écoute, je me suis fait raconter des 50, des 60 000, 70 000. Mais si on se réfère aux années 80, là, il y a eu des taux d'intérêt qui ont monté jusqu'à 21-22%.
Oui, 82.
Comment ça pouvait coûter? Je suis-tu dedans? 60-70 à peu près?
Bien, tu vois, le rapport avec le revenu moyen, c'était 3 fois le revenu annuel moyen à l'époque. Et c'est comme ça qu'on compare là, au prorata. Aujourd'hui, ce serait plus de 7 fois le revenu moyen. Et le revenu moyen, il est, on va dire, 60 000, faire un beau chiffron. Fait que là, 6 fois 7, ça fait 420 000. 400, on est pas mal dedans. Là, c'est un prix moyen d'une maison. Puis ça dépend de la région. Là,
ouais.
Là on a généralisé, c'est un sondage canadien. Fait que là, le revenu moyen par rapport à... Mais c'est quand même... Il y en a qui vont dire 9 fois, 8 fois, mais c'est plusieurs fois le revenu moyen, l'acquisition d'une maison, si on compare avec l'époque où on parlait de trois fois. Quand même.
Mais il y a quand même des façons de s'en sortir pour cette génération-là. Je parlais avec un jeune de 20 ans qui, lui, voulait s'acheter une grosse maison puis qui se plaignait comme quoi le prix des maisons était beaucoup trop élevé. Ça donne que c'était un courtier immobilier. Il venait de finir son cours et tout ça. Mm-hmm. J'ai dit, mais tu sais que tu peux acheter un 3 logements avec un 5 % de mise de départ, ben passé oui, par les ben SCHL. Oui. Tu achètes un 3 logements puis tu n'es pas obligé d'acheter la grosse maison de départ, mais cet immeuble-là que tu vas payer va prendre de la valeur avec le temps. Puis toi-même, tu ne payeras pas dans le vide, plutôt que d'aller te chercher un logement qui va te coûter... Écoute, son logement avec sa conjointe, il coûte 1900$. Ils ont un 5,5.
Ah oui, hein?
1900$. Puis là, ben, t'ajoutes l'Internet, t'ajoutes...
Les assurances.
Ah oui? Ça ne fait plus. Il y a encore moyen, avec les divers leviers qu'on nous offre, là, avec la SCHL, entre autres.
Ouais.
Tu commences dans la vie, tu te dis, hey, condo, ça serait intéressant, mais je vais commencer avec un 3 logements. Ça va coûter, mettons, un 3 logements, mettons, ça va coûter 400 000 si tu vas chercher dans le secteur
de Montmorency. Oui, c'est ça.
Ça va te coûter, mettons 400 000, ça te coûte 20 000 $ de cash down. C'est intéressant.
Ben oui. Ben oui.
Il y en a qui vivent mal avec le risque, avec les taxes municipales, avec les taxes scolaires, que t'as, puis le fait d'avoir des bons locataires. Il y en a qui veulent pas ça, que ça les stresse.
J'ai cette impression-là, Pascal, puis tu me diras peut-être que je erre, là, parce que je connais pas bien cette génération-là, mais... Ils voient leurs amis avec des belles grosses voitures. Ils voient leurs amis avec des belles maisons. Ils sont très Instagram, ils sont très TikTok.
Je pense que oui.
Ça représente la richesse. Fait que d'aller chercher un 3 logements puis de faire chier avec des locataires qui...
De travailler pour ton argent,
exact.
Finalement.
Ça le tente moins.
Ça se peut que ça joue, là.
C'est
je
clair
dis pas pour
que...
tout le monde, mais...
Je sais pas.
Je trouve que tu as les deux dispositions. Tu as vraiment ceux qui ont compris puis qui ont... Bon, fait en sorte qu'il n'y ait pas ce style de vie-là pendant un bout puis qui sont rendus à un point où ils en profitent parce qu'ils se sont serrés... complètement le portefeuille, là. Puis t'as eu les autres qui ont voulu le style de vie tout de suite, là.
T'as
raison. Je trouve que t'as les deux catégories.
Tu peux pas t'enrichir avec un style de vie. T'sais, en partant, là.
Mm-hmm.
On évoque la logique, là. Moi, je suis un gars, je suis capable d'être plate quand je veux avec l'argent, là. Tu peux pas t'enrichir avec un style de vie. Si t'augmentes ton style de vie, tu t'appauvris. Tu peux pas. C'est impossible. Mm. Si tu veux t'enrichir, ça paraît pas.
Ouais.
C'est ça, le piège. Une grosse maison, je sais pas si c'était vous autres j'ai dit ça ou sur mon podcast, je parle tellement d'une journée d'argent, mais je le redis. C'est sûr que si j'avais 10 millions ou 15 millions qui rentrent d'un exit, j'ai vendu une entreprise, il y a un 10-15 millions qui entrent, c'est certain que je vais diversifier en achetant une maison de 3-4-5 millions avec une possibilité de marge de crédit hypothécaire dessus pour faire du levier, peu importe. Mais c'est certain, dans ma diversification, il y a une partie qui va être l'achat d'une maison pour l'exemption d'impôts avec une maison de 3, 4, 5 millions qui prendront de la valeur comme levier.
Mais... encore là, les gens se posent des questions. Il y a eu de ça, quelques années, Pascal, tu l'as certainement vu passer. À l'Île-Bizarre, Céline Dion avait sa maison avec Renan Jalil.
Oui.
Puis elle avait toujours une hypothèque dessus. Et là, les gens avec qui je travaillais à l'époque disaient ça n'a pas de crise de bon sens, c'est Céline Dion. Là. C'est une artiste planétaire. Elle est multimillionnaire. Pourquoi elle n'a pas payé sa maison au cash? Ben, c'est parce que son cash, il est placé.
C'est parce que c'est un levier. Puis, règle générale, la maison, le taux d'intérêt. C'est intéressant ce que tu dis parce que les banques font leur vie avec ça. C'est qu'ils vont prendre de l'argent qui coûte moins cher. Ils vont la relouer à du monde qui sont prêts à payer plus cher. C'est le loyer de l'argent, proprement dit, c'est le taux d'intérêt. Donc, tu dis, pourquoi j'immobiliserais mon cash dans une maison qui coûte 5-6 % d'intérêt? J'aime bien mieux faire travailler cet argent-là dans des entreprises privées, dans des projets privés qui peuvent rapporter 20, 25, 30 % dans le cas des entreprises privées. C'est risqué, oui, puis c'est différent. Mais mon exemple de maison, c'est certain que je peux faire quand même un beau rendement sur une maison de 4 millions qui, de toute façon, dans ma valeur, si moi je vaux 12 ou 15 millions d'une sortie de vente d'entreprise, pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, les gens gagnent 60, 70, puis ils s'achètent une maison de 400, 500, ils tirent à l'os. Tu sais, c'est trois fois ton revenu brut de ménage pour une hypothèque raisonnable. Il faut que tu prévois aussi tous les autres frais et l'argent que tu vas mettre d'avance dans un fonds de prévoyance pour changer les fenêtres, la toiture, etc.
Mm-hmm.
C'est trois fois le revenu brut de ménage. Puis les ménages, on sait combien ils gagnent, 120, 130 en moyenne. Donc, les maisons à 500 000, qui est quasiment le prix moyen aujourd'hui à Québec, à Montréal, c'est beaucoup plus que ça, ça ne cadre pas avec un revenu moyen de ménage. Mais ça passe pareil à la banque, parce que la banque ou la caisse vont aller des fois à 5 fois, quatre fois, cinq fois, ils s'étirent ça. Puis là, ben, ils vont demander peut-être plus de comptant, c'est correct. Mais pourquoi pas commencer avec un triplex, ça veut pas dire qu'avec ça, tu vas. C'est pas être Klondike, là. C'est certain que ça vient avec des responsabilités, comme tu dis, oui. Yann. Puis Pascal a raison. Dans la génération où on veut peut-être pas trop de responsabilités, puis on est capable de bien paraître juste avec du crédit. Moi, j'ai pas de trouble avec le crédit lorsque c'est du levier, lorsque c'est pour réinvestir ou lorsque c'est pour éviter de payer justement 53 % d'impôts. Utilise ton crédit à 7 %. Why not? Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les gens utilisent le crédit pour faire l'épicerie, puis pour consommer, puis augmenter son confort. Le confort, c'est la pire drogue qu'on peut pas avoir.
Ah, j'aime ça,
dans le confort, vous allez vous endormir carrément. Et après ça, c'est difficile de se réveiller. Fait que là, une petite note de croissance personnelle en terminant. Mais écoute, j'en avais 7-8 autres, puis je pense qu'on arrive au bout. Mais dans l'excitation, puis dans la discussion, c'est certain qu'on devient enthousiaste.
Ouais.
Là,
on aime ça, puis on apprend tout le temps.
Mais c'est le fun, parce que ces sondages-là sont là pour alimenter des discussions, puis d'essayer de se comparer. Mais tu sais, vous êtes plus riche que vous le pensez. Ça, c'est une institution financière qui disait ça. Mais probablement que la plupart des gens se ressemblent beaucoup. 47 % des gens vivent de paye à paye. Il y a 50 % des gens qui sont stressés pour leur situation financière. Donc, une personne sur deux au Canada, stressée pour leur situation financière. Au Québec, moins stressée, parce qu'au Québec, on a des services sociaux, puis les gens se fient un peu au gouvernement, puis on a un peu plus de sécurité, on dirait. Puis en vieillissant, c'est encore mieux pour vivre au Québec. Puis en étant vulnérable, c'est au Québec qu'on veut être. Mais en voulant devenir milliardaire, là, t'es plus bien au Québec. Tu dis, je vais aller aux États-Unis. Fait que ça dépend, c'est quoi tes aspirations?
On te suit sur ton podcast, financièrement parlant?
Oui, merci.
Merci beaucoup, Pat Raymond. Pascal, t'as-tu réfléchi à une question pour les gens qui trippent sur la moto? Moi, j'ai un concours.
Oui, ben vas-y, parle de ton concours.
T'as choisi ta question?
Oui.
Allons-y. Je vous parle de motocyclistes, bien entendu. C'est l'Expo Moto qui est de retour au Centre de foire du 7 au 9 février. Est-ce que vous êtes prêts? C'est Boulevard 101 qui vous invite à cet événement-là. Plusieurs centaines de véhicules qui seront sur place. Ça va être le moment idéal pour acheter votre nouvelle moto sur place, qu'elle soit neuve ou encore d'occasion. Vous allez pouvoir l'acheter sur place. Si vous voulez, je ne sais pas moi, des bottes, des casques, ça va être là aussi. L'Expo Moto va vous combler. C'est un événement qui est familial avec accès gratuit pour les 11 ans et moins. Il y a l'initiation à la moto en toute sécurité pour les enfants grâce à l'Académie Miloland. Je vous le dis, moi j'amène mes gars-là à chaque année. Puis ils ont trouvé que les motos étaient pas pires, mais les essayer, c'est aussi pas pire. Donc pour l'occasion, on a justement une paire de billets à vous offrir. Le mot de passe, Pascal.
Notre ami Pat Raymond dit que le confort, c'est... Il vient de le dire, là.
T'es dur avec eux autres.
Trouve ça?
418-971-1021, 418-971-1021. Ça vous vaut une paire de billets pour l'Expo Moto.
Nous autres, si personne le trouve, je prendrai quelqu'un dans les réponses.
Hein. Ouais, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Nous autres, on s'arrête pendant quelques secondes. On vous pousse dans vos oreilles. The Offspring, Pretty Fly for a White Guy sur Boulevard. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est moins compliqué. Communiquez avec nous. On va le dire à tout le monde. 418-971-1021. 418-971-1021, c'est par texto. Aujourd'hui, il neige encore à certains endroits, mais au-dessus de la ville de Québec, là, je pense que la neige s'est envolée. Et ce sera terminé tout ça dans les prochaines heures, nous dit-on. Maximum de moins 7 ce soir, cette nuit, ciel dégagé. Minimum de moins 22. Demain, mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 12. Jeudi, des averses de neige, maximum de moins 8 degrés. Et vendredi, pour terminer la semaine, ben encore de la neige. On salue les gars et les filles qui font du déneigement. Beaucoup d'heures de travail dans les derniers jours. Là.
Mm-hmm.
C'est pas nécessairement évident. Le Grand Orange, l'autre côté, nous a stressé comme pas possible pendant plusieurs heures. Hier, il y a finalement eu entente, mais je regardais les hommes et les femmes d'affaires discuter de ça. Surtout ceux qui font de l'importation et de l'exportation, eux étaient très inquiets. Puis, on a eu l'idée d'inviter M. Leclerc, Jean Leclerc, qui est le propriétaire de Laura Socor et de Nutriar, qui sont des exportateurs de chocolat en Amérique du Nord. M. Leclerc, merci d'être avec nous. Comment allez-vous?
Ça va très bien, je vous remercie.
Ah, quand j'étais petit, M. Leclerc, je rêvais de rencontrer M. Laura Socor. Et c'est vous, là?
Oui, ben, c'est Madame Laura, c'est plutôt Mme Laura Socor, la vraie héroïne canadienne qui, jadis, avait aidé l'armée canadienne, qui était à l'époque l'armée britannique, à se préparer contre l'invasion américaine.
Ouais.
Écoutez, un peu inconnue, hein? On a connu comme une petite invasion hier... Et on l'a échappé belle pour 30 jours. Évidemment,
c'est difficile pour des entreprises comme nous qui exportons plus de la moitié de notre production aux États-Unis. Parce que, évidemment, on ne sait pas dans 30 jours ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas sur quels critères se basera M. Trump ou les Américains pour continuer ou cesser l'histoire des tarifs. Et évidemment, on commence à deviner la réaction de nos clients américains devant cette espèce de pit de Damoclès sur la tête. Là, vous comprenez que dans un secteur de commodité comme le chocolat, on travaille beaucoup avec des contrats à plutôt long terme. Hein. Évidemment, on a des conteneurs de marchandises sur les océans qui nous apportent les matières premières de l'Amérique du Sud et ou de Singapour et ou de l'Afrique. Et on doit coordonner tout ça pour qu'on soit capable de fabriquer pour nos clients. Et on sait souvent 3 mois, 4 mois, 5 mois d'avance parce qu'ils ont signé des contrats avec nous. Qu'est-ce qu'on aura à faire? Et évidemment, là, il faut convaincre les clients de signer quand même avec nous pour l'été prochain. C'est à peu près là qu'on est rendu, ne sachant pas s'il y aura cette histoire-là de 25 % de 20, de 15, de 10, on ne sait pas. Mais on sait très bien que nous, il n'est pas question qu'on paye ça parce qu'on n'a pas les marges. C'est nous, on ne vend pas des semi-conducteurs, là, on n'a pas des grosses exact. Marges sur un produit de commodité. Donc, alors c'est un peu dans ça qu'on est empêtré aujourd'hui, mais on est quand même un petit peu moins empêtré qu'hier avant 5 heures.
On bénéficie quand même de 30 jours pour essayer de pallier justement à ces décisions. Quoique, moi, j'ai pas l'impression qu'on va en réentendre parler, puis ça va être aussi stressant que ça a été dans les dernières heures. J'ai l'impression que c'était du bluff, puis il a obtenu ce qu'il voulait, puis on va passer à d'autres choses. Puis l'Organisation mondiale du commerce aurait anyway retiré ce droit à Donald Trump d'appliquer cette taxe-là de 25%. Mais pendant la pandémie, M. Leclerc, puis j'ai le goût de vous poser des questions en tant qu'homme d'affaires, parce que pendant la pandémie, on a essayé de voir le positif qui ressortait de cette pandémie-là. Il y a énormément d'entreprises qui ont dû s'adapter. Les gens devaient se rendre au boulot. Là, on a trouvé des solutions pour que les gens puissent travailler de la maison. T'sais, il y a eu quand même du positif qui en est ressorti de ça. Puis les PME se sont grandement développées parce que c'était la grosse misère, la pandémie. Puis on voulait rester compétitif puis rester dans le merveilleux monde du commerce. Là, est-ce qu'on dépend trop, à la grandeur du Canada pour ce qui est des PME puis des grosses entreprises, est-ce qu'on dépend trop des États-Unis? Puis est-ce que c'est un beau moment pour se diversifier?
La réponse, c'est oui. Mais évidemment, dépendant du genre de produit que vous produisez, il y a des produits qui sont beaucoup plus faciles à exporter. Il y a des produits qui s'exportent facilement en avion. Moi, mon voisin ici, c'est la compagnie Exfo, fait des appareils pour tester la fibre optique. Tu peux envoyer 100 appareils par avion à Tombouctou, puis ça va aller très bien. Ouais. Nous, on est dans de la commodité lourde. On vend des tonnes de chocolat, des tonnes de pépites de chocolat, de morceaux de chocolat qui servent à des entreprises qui font des muffins, des biscuits, des bars de toutes sortes, granola, etc. Donc, la quantité est importante et le poids est également important. Alors, plus vous allez loin, plus la portion de transport, du coût de transport dans votre produit total est importante. Et à un moment donné, si ça coûte 50 % du coût total du produit pour l'envoyer très, très loin, il n'y a pas personne qui va en acheter. Alors, le principe de diversifier nos clients à l'export est quelque chose de valable et quelque chose d'applicable pour un grand nombre d'entreprises, mais pas tout le monde. Alors, et il y a aussi la valeur du bien. Si vous vendez des choses très, très chères, si vous avez à payer très cher pour expédier, il va en rester quand même. Quand il s'agit de commodités, quand il s'agit de la farine, du maïs, etc., c'est encore plus complexe. Bon, évidemment, avec les années, il s'est développé des paquebots, c'est même pas des containers, c'est directement dans le fond de la cale. Donc, on réussit parfois à compenser la distance par des moyens logistiques intéressants. Nous, c'est un peu difficile. Il s'agit toujours de containers. Et c'est difficile d'exporter ça au Japon. Et je vous dis pas qu'il n'y en a pas qui le font. Ouais. Et l'Europe encore plus, parce que c'est un peu comme vendre des frigidaires à des Esquimaux. Les Belges font à peu près 10 fois plus de chocolat qu'ils peuvent en consommer. Alors, eux, se sont de très grands exportateurs, le plus gros exportateur de chocolat fabriqué, là, de produits finis de chocolat au monde, c'est l'Allemagne. Alors donc, et tout le monde pourra dire aussi, bah, allez en Asie, mais il faut comprendre que nous, on n'est pas du bon côté du Canada pour aller en Asie, parce que pour aller en Asie, il faut traverser complètement le pays, après ça, prendre un bateau, après ça, arriver en Asie. Et il y a peut-être que notre client, lui, il est pas près du port, alors il veut un autre camion pour faire 2, 3, 4 heures en Chine ou ailleurs. Donc, on est un peu à la merci de ce marché immense, le marché américain, où, dans mon cas, il consomme énormément de chocolat per capita, pas autant qu'en Suisse, mais quand même pas mal, ils sont nombreux par ailleurs. Alors, ce qu'on a fait au cours des années, de développer nos affaires autour du Canada et des États-Unis, c'était la chose à faire. Évidemment, là, on va réexaminer notre position, mais il n'y aura pas de miracle à faire. L'autre problème qu'on a, si vous me permettez, c'est que on a beaucoup de clients canadiens. Mais beaucoup de nos clients canadiens ont une grande partie de leur chiffre d'affaires qui s'en va aux États-Unis. Alors donc, nous, on est doublement frappé parce que nos clients américains ne veulent pas payer le 25%, ça va de soi. Nos clients canadiens qui vendent beaucoup aux États-Unis avec notre chocolat dans leurs produits vont vraisemblablement, si ça continue, cette histoire de 25%-là, on va perdre des clients. Alors, on est comme frappé deux fois. Et puis, il y en a qui sont pires que nous parce qu'il y en a qui sont frappés trois fois. Nous, on a très, très peu d'ingrédients et même d'emballages qui viennent des États-Unis. Mais oublions pas qu'il y a des gens qui importent des matières premières des États-Unis, qui les transforment et qui les retournent aux États-Unis. Alors, ces gens-là sont encore plus mal pris parce qu'il va y avoir un 25% qui s'appliquerait sur les matières premières américaines qui viennent au Canada et un 25% qui va s'appliquer quand ton produit fini va retourner aux États-Unis. Alors, quand on parle de ça, on voit que, à sa face même, ça ne peut pas avoir de sens. Alors, il va se passer quelque chose. Il y a des gens qui vont réfléchir. Il va y avoir énormément de pression qui vont se faire sur la Maison-Blanche de la part de sénateurs et de représentants américains qui vont être, comme on dit, mis au parfum par leurs commettants. Écoutez, là, faites pas ça. Ça n'aura pas de bon sens. Alors, il y a de l'espoir que les 30 prochains jours vont permettre aux uns ou aux autres de dialoguer. On peut quand même dire que nos ministres et notre premier ministre canadien et même les provinciaux ont quand même fait des gros efforts de dialogue avec leurs homologues américains depuis le début de l'année. On peut pas dire que M. Ford n'a pas essayé. On peut pas dire que M. Legault n'a pas essayé. On peut pas dire que M. Trudeau n'a pas essayé. Mme Joly est nommée là toute. Donc, il y a des gros efforts qui sont faits. Bon, mais est-ce que ça va être assez? C'est l'avenir qui va nous le dire.
Chose sûre, c'est que c'est un message clair à la population. C'est encourager le plus possible l'économie locale. C'est un message aussi qu'on envoie au gouvernement canadien puis provinciaux. Organisons-nous pour qu'entre provinces, on puisse faire des affaires sans nécessairement complexifier les choses tout le temps.
C'est ça. Ben ça, c'est il y a une logique là dans ce que vous dites là, qu'on devrait tout le monde être très à l'écoute de nos producteurs locaux, régionaux, provinciaux, nationaux. Ça tombe sous le sens. Alors quand il arrive des crises comme il y en a eu à la COVID et comme on a eu la semaine passée jusqu'à hier. Et la crise n'est pas finie, là. On a un sursis, hein. C'est écrit partout, là. C'est un sursis de 30 jours. C'est une bonne façon, c'est pour tout le monde de se re-questionner sur ses habitudes d'achat. Puis ce faisant, bien évidemment, on est moins dépendant là, de ce qui vient d'ailleurs, notamment des États-Unis, mais en plus, il y a tout le côté carbone de l'affaire. Là. Je veux dire, c'est très facile à comprendre que plus les produits viennent de loin, bon, évidemment, plus il y a de la pollution pour l'amener chez nous. Bon, vous allez dire, le Canada, c'est un bien grand pays. Moi, je vends en Floride, puis je vends à Vancouver. Du chocolat, je peux vous dire que ça me coûte pas mal plus cher envoyer ça à Vancouver qu'en Floride. Mais il faut jamais oublier que la grosse infrastructure industrielle du Canada, c'est Montréal, Toronto et les environs, là, y compris évidemment à Québec, Ottawa, etc., et le Greater Toronto. Donc, il y a de très, très grandes chances, quand vous achetez un produit canadien, il y a de très grandes chances qu'il soit fait dans la grande région de Toronto, dans la grande région de Montréal, à Québec. Je ne dis pas qu'il s'en fait pas en région, là, je veux faire très attention parce que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est vraiment ce qui est le plus parsemé sur le territoire. Mais il y a de bonnes chances, quand vous achetez un produit canadien, que c'est pas un produit qui va avoir fait 5 jours de camion pour arriver chez vous.
Exact.
Et donc, vous faites une pierre deux coups, vous encouragez des concitoyens, vous faites moins d'imports américains ou ailleurs dans le monde, et vous faites aussi un effort pour la planète, parce que ça va avoir dépensé, on va avoir dépensé moins de pétrole pour l'amener sur votre table à dîner.
Jean-Leclerc, ça a été un plaisir de discuter avec vous ce midi.
Oui, on se reprend dans des moments un peu moins difficiles, j'espère.
Ah, mais on trouve du
positif. À la prochaine.
On trouve du positif. Il faut, là, c'est
le propre des entrepreneurs.
Exact.
De trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Le monde est en constante évolution et cette année, c'est ça. L'année prochaine, ça va être d'autres choses. Regardez dans notre cas, le cacao est à des prix absolument incroyables. Le cacao étant une commodité, il y a eu des mauvaises récoltes pendant une couple d'années de suite en Afrique et en Côte d'Ivoire notamment et au Ghana. Et donc, ça a fait monter le prix. Alors, les gens qui consomment du chocolat l'ont déjà vu. Et malheureusement, ça prend pas le bon bord pour l'instant. C'est encore très cher. Alors, on espère, nous, comme manufacturiers, mais on espère aussi pour nos clients qu'on va avoir une petite pause là-dedans et qu'on va redevenir à des prix dont on était habitué, là, des prix qui faisaient qu'une barre de chocolat, un peu tout le monde pouvait se permettre ça.
Exact.
Alors, je vous remercie.
Merci à vous.
Prochaine.
Au revoir. Jean Leclerc, c'est le propriétaire de Laura Socor et de Nutriar. Monsieur Leclerc exporte 50% de sa production aux États-Unis. Donc, on a un sourcil de 30 jours. C'est sûr que c'est un peu moins stressant qu'hier, cette journée-là, mais n'en demeure pas moins qu'on est un peu dans l'incertitude. Là.
On le réinvitera parce que le moment de l'import-export à l'international,
oui,
hyper intéressant.
Exact, exact. On s'en va en musique. L'excellent Clan de la Savate sur les ondes de boulevard avec l'armée des voyous. Si vous avez des choses à nous dire, voyez quoi que ce soit, 418-971-1021.